Toi, Oscar, mine de rien, en fait, t'as un peu plus de bouteilles parce que t'as déjà deux EP derrière toi, un album complet, t'as réalisé plein de trucs avec d'autres gens. Toi, Anaïs, ta carrière un peu plus récente.
Mais t'as 23 millions d'écoutes avec juste un morceau.
Oui, ce que n'a pas Oscar, c'est vrai, il faut le rappeler régulièrement.
Là, ça fait mal.
Depuis le début de cette émission, on entend que des morceaux, mais. C'est luxueux, quoi. Donne envie de manger des ailes de poulet dans de la belle vaisselle, tu vois. Enfin, c'est.
Daz, c'est dans le tempo.
Hey, Salman.
Ça va très bien. J'ai l'impression que ça fait 600 ans qu'on ne s'est pas vu.
Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas
ça
vu.
Ça fait 3 semaines.
Et on se retrouve pour enregistrer le 97e épisode d'Az du podcast.
On approche de la barre.
Et c'est le dernier de la saison.
Il paraît.
Et oui, on se retrouvera évidemment l'année prochaine, rassurez-vous.
Évidemment.
Mais on va faire une petite pause, je pense un mois à peu près, on sera pas là, voilà. Il y aura pas d'épisode sur le mois d'août. Ça doit clôturer.
Oui, l'année prochaine, scolaire.
Oui, bien sûr, on se retrouve dès septembre. Voilà. N'inquiétez pas.
Bien sûr, on est scolaire, nous. Ouais. Et alors, du coup, on clôture cette émission de bien belle manière, j'ai l'impression.
Carrément.
Puisque nous recevons des invités qualitatifs.
Oui, de qualité en effet. Ouais. Tu sais quoi, pour de vrai, j'adore leur musique à tous les deux.
Ok. Ouais.
On est avec Oscar Hemsch. Salut, Oscar.
Salut.
Ça va?
Bonjour, bienvenue.
Ça va.
Et on est aussi avec Anaïs Cardo.
Hello.
Ça va?
Bienvenue, Anaïs.
Merci.
Daz.
Ouais.
Ils sont musiciens tous les deux.
Ok.
Artistes. Alors Anaïs, autrice, compositrice, interprète. Ta musique, c'est un mélange de plein de trucs, à la fois R&B, pop, jazz, aussi un aspect très acoustique dans ta musique. On retrouve plein de choses. Et alors, elle a un parcours hyper étonnant, complètement international. Mais c'est vrai. Attends. Donc, franco-gabonaise.
Oui.
Tu as grandi au Gabon. Tu as passé beaucoup de temps au Canada, où tu retournes régulièrement. Dans ta musique, tu parles français. Enfin, tu chantes en français, en anglais, en portugais, en espagnol. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est étonnant ce parcours.
Oui. Après, le portugais, c'est aussi dans la famille. Enfin.
Okay.
Du coup, enfin, je suis née au Gabon. Ouais. Après, je suis passée par le sud de la France, donc Marseille et tout. Après, je suis retournée au Gabon, mais en fait, mon père, il est portugais. Il est franco-gabonais-portugais.
D'accord.
Donc, j'ai beaucoup grandi avec ce type de musique. Et après, le Canada et maintenant, Paris.
C'est bien, ça, de viser tous les continents quasiment, à l'exception de l'Asie. C'est assez notable, hein, quand même. Pas trop d'efforts pour apprendre le chinois, par exemple.
En vrai, c'est pour le développement de ta carrière, mais il faut t'y mettre dès maintenant. Oscar, le chinois aussi
Non, j'ai pas.
Ouais, bah, ce qui est intéressant, c'est que je le disais, elle chante dans plein de langues différentes. Alors, au sein de différents projets, Daz, parce que donc il y a eu des singles et surtout il y a eu un EP. Un EP qui est sorti en 2023, Pink Magnolia, où vraiment, je pense qu'une partie du public t'a découvert grâce à cet EP. T'as eu quelques petits tubes à ton échelle. Et ce que j'aime bien, c'est que cet aspect international, on le retrouve aussi dans des collaborations que tu as pu faire. Mmh. Et notamment, t'es très connecté avec des gens d'une vague qu'on pourrait qualifier d'afrobeats, la pop africaine en fait d'aujourd'hui. Mmh. T'as par exemple un featuring avec Wizkid. Mmh. T'as aussi composé pour Ashake, qui est aussi une grosse star nigériane, si je dis pas de bêtises.
Mmh.
Donc vraiment, cette expérience, alors que t'es en développement de carrière encore, t'es mine de rien, vraiment c'est
j'ai
le début.
J'ai aucun rapport avec cette musique.
Et il y a un truc incroyable qui s'est passé, mais il faudra que tu nous racontes comment, parce que ça c'est complètement fou. C'est genre, c'est des dizaines de millions de streams, tu vois, ces morceaux.
Ok.
C'est n'importe quoi.
Ok.
Oscar, je te présente aussi. Ouais. Pareil, auteur, compositeur, interprète. Alors toi, ta particularité, un truc que fait moi Anaïs, c'est qu'aussi tu réalises, tu produis pour d'autres gens.
Ouais.
Notamment, tu l'as fait beaucoup pour Enchanté Julia, pour Luigi, pour Turi, pour Prince Wally, que des gens ont dit.
Que des gens ont dit, c'est une blague que je fais à chaque
c'est
fois,
vrai.
Je suis content que tu
moi, je m'appelle Salman Sali, est-ce qu'on peut collaborer ensemble?
Allez, c'est parti. Travaillons ensemble.
Non, c'est pas un critère, c'est bon. C'est
non, ça s'est juste fait comme ça, ouais.
Mais c'est très, très rap, du coup, pour le coup.
Mais en fait, oui, de base, c'était vraiment avec Enchanté Julia. Je pense que c'est la première et l'artiste aussi avec qui j'ai fait le plus de morceaux, en vrai, jusqu'ici, que ce soit des feats entre nous ou juste des morceaux que j'ai composés pour elle.
Mais on le disait, tu mènes aussi ta carrière en solo. Alors c'est relativement récent, enfin t'avais déjà deux EP à ton actif. Il y avait en 2020 Portrait Craché, en 2022 Respire. Et puis là, t'as sorti ton premier album en mars dernier, Ma Voix. Et franchement, tu sais quoi, moi je ne connaissais pas Oscar, pour être honnête, avant, il y a quelques mois, et c'est par son entourage qu'on m'en a parlé, et j'ai écouté l'album, et en fait j'ai trouvé ça trop bien.
Merci, ouais, j'ai eu peur de ce que t'as dit.
Heureusement, heureusement.
J'ai trouvé ça trop bien. Non mais parce, en fait, je reçois très régulièrement des sollicitations, des mails, tout ça, en disant ouais. Ah, écoute, il y a plein de trucs bien, etc. Mais rarement, ouais. Je me dis vraiment...
Ouais, il est bien. Hein.
C'est vrai, il est bien. Ouais, il est vraiment bien là-bas.
Ouais, après, gars, il a fait un Planète Rap.
Il a fait un Planète Rap. Alors, on a deux invités qui ont été dans Planète Rap.
Incroyable. Dans le même.
Dans le même Planète Rap en plus.
Ouais, c'est ça.
Anaïs, c'était pour Opinard, c'est ça. C'est vrai qu'il y a. Je pense qu'il y a un des éléments dont on parlera dans cette émission, Daz, c'est qu'il y a aussi une petite scène de gens qui se connaissent, etc., qui peuvent partager des musiciens en commun, qui peuvent collaborer ensemble, etc. C'est un truc qu'on évoquera parce que l'idée, c'est de parler évidemment de la musique d'Anaïs, de la musique d'Oscar, dont on écoutera les extraits de l'album d'Oscar dont je parlais, qui est vachement bien. Leur musique, vos deux musiques ne sont pas exactement les mêmes. Toi, Oscar, il y a la vibe R&B qui est hyper assumée, hyper présente, en même temps avec quand même une esthétique un peu plus pop de manière générale, hyper mélodique, accessible, etc. Chez Anaïs, il y a aussi ce truc R&B, mais matiné d'encore plus, j'ai l'impression, d'influences différentes, etc., notamment ouvert vers l'extérieur et notamment sa version acoustique.
Quand on dit R&B, on se positionne où par rapport au R&B, tu vois,
parce que... C'est un truc dont on pourra parler.
C'est quoi le R&B?
Bah ouais, parce que...
Matt Houston?
R&B de Rome? Je veux pas qu'on...
Wonder,
Willie Denze?
Je veux pas qu'on se limite à parler que de scène R&B, mais en tout cas, globalement, de parler d'artistes émergents qui proposent une musique dont l'une des grandes inspirations, je pense, est le R&B, et de plus en plus assumé. À un moment, c'était un peu compliqué de dire « j'adore le R&B ». Aujourd'hui, il y a un truc qui se passe, on dit « ouais, c'est cool, fondamentalement,
R&B ». Bah parce que si, je pense, Drake est passé par là, Kendrick Lamar, SZA, etc. quoi.
Kendrick Lamar, R&B,
Ouais, bah en fait, justement, les sons avec SZA, notamment, je trouve. Enfin, oui, donc en fait, plus SZA que Kendrick Lamar, effectivement. Pardon.
Faut commencer en écoutant de la musique, peut-être. Pas.
Bah ouais, ça serait chouette.
C'est bien, on commence avec Anaïs, avec Oscar. Tu veux dire, encore, c'est avec Oscar. Bon, et bah écoute, alors, on commence avec Oscar. Mais ce que j'aime bien, c'est que, j'ai écouté les deux EP aussi avant. Et on sent que tu as pris de la confiance, que ta recette, elle est quand même plus elle s'est affinée, franchement, avec le temps. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des morceaux... T'aimes tout ton album, mais il y a des morceaux qui tiennent plus à cœur que d'autres. C'est obligé.
Sur mon premier album
Non, sur ma voix, ouais.
Ouais. Oui.
Est-ce qu'il y en a un que t'as envie qu'on écoute, par exemple, pour découvrir un peu ton univers ou...
Ouais, moi j'aime beaucoup Mumu.
Oh, c'est un de mes préférés aussi.
Ok, super. Vas-y.
D'une efficacité d'Az. On s'écoute ça. Mumu, Oscar Hemsch.
Est-ce que tu te souviens de Marseille, de ce genre de nuit d'été aussi chaude qu'une après-midi, quand le goudron brûlait même après le soleil, qui niquait le plastique sous mes claquettes. Et j'ai pas de style, rien à foutre, on traîne en bande, il fait chaud. Mon ami me reconnaît, elle me parle, puis me tourne le dos. Je me sentais si seul, mais j'attendais plus rien de spécial. Et je rentrais tout seul chez moi quand on s'est retrouvés par hasard. Et depuis mes yeux ne se posent plus pareil sur toutes les autres femmes. Pas, je suis ton premier fan, car tu es la seule que j'aime. Que j'aime comme ça. Est-ce que tu me crois quand je te dis que cette fois c'est pour de vrai? Avec toi, je me sens si frais.
Cette, euh, ce petit solo avec cette guitare légèrement fuzzy, ça me fait penser un peu à Childish Gambino sur son album. Il a un moment comme ça sur comment il s'appelle
ça,
cet album,
comme Ref, on
sur
est...
Redbone. C'est pas exactement le même son de guitare, tu vois, mais il y a un truc un peu.
Oui, enfin, en fait, c'est un synthé.
Ok.
Mais enfin, c'est un synthé avec des guitares en plus. Enfin, okay. c'est un mélange de plusieurs trucs.
C'est Ludwig Göransson qui est derrière cette production.
Oui, exactement. Le grand Ludwig.
Tu sais, qui est le mec qui fait beaucoup de BO au cinéma.
Kenneth.
Qui a fait aussi The Mandalorian.
Il a fait Mandalorian,
par exemple, choses comme ça. Ouais. Qui avait produit cet album.
De ouf. Black Panther aussi, je crois.
Ah ouais?
Il me semble.
Ouais. Ah.
D'ailleurs, j'ai une connexion Black Panther. Avec Anaïs, on en parlera après. Parce qu'il y a un producteur avec qui tu bosses qui a bossé sur Black Panther.
Ah bon?
C'est P-Prime.
Ah ouais?
Ouais.
Je savais pas.
Fin de l'anecdote. Ouais,
elle a cassé mon délire comme ça. Je crois qu'elle va dire « Mais ouais, absolument !» Est-ce que pour croiser un peu les trucs, on écoute tout de suite la musique d'Anaïs ou...
Bah ouais.
Ouais, on fait comme ça.
Allez, back to back.
T'es moins timide, c'est bon,
non, on peut... Ouais.
Toi, pareil, Oscar, c'est son premier album. Toi, c'est ton premier EP dont on va s'écouter un extrait.
C'est techniquement mon premier EP.
Ouais.
Techniquement.
Pourquoi techniquement? Parce qu'il y a eu des choses avant que...
Parce que j'avais sorti un premier EP quand j'avais 16-17 ans.
Ok.
Je venais à peine découvrir les plateformes, c'est genre, je vais tout tester. Et j'avais sorti un EP, mais après, je l'ai enlevé toutes les plateformes. Donc, en soi, c'est mon deuxième EP.
Et le premier, c'est parce que t'assumes plus ou...
Non, j'assume pas. J'assume pas du tout. Okay. Genre, j'enregistré dans ma chambre au Canada avec un vieux micro.
Ouais.
J'ai produit plein de petits trucs, etc. C'était très lo-fi aussi.
Ouais.
Mais je me retrouvais pas dedans. Okay. C'était, ouais. Ouais.
Sur cette EP, alors en plus il y a une version de luxe avec des morceaux en plus. Donc à toi de voir si t'as envie d'écouter un morceau plutôt de la version de luxe ou déjà qu'on trouve sur l'original. Il y a un morceau particulier que tu pourrais. Moi, je te dis par exemple, alors le plus gros tube ça a été Colors dessus. Moi j'adore Elodie par exemple, où tu chantes en portugais. Mais c'est toi qui choisis fondamentalement. Ça peut être complètement un autre morceau.
Je te laisse choisir.
C'est vrai.
Je te laisse choisir.
Bon, peut-être alors Colors. Et de toute façon, on écoutera d'autres. Oui. Parce que c'est le morceau qui a le plus marqué les gens. Des millions d'écoutes sur Spotify.
Des millions d'écoutes.
Colors, Anaïs Carto. C'est pas doux, ça d'Az.
Ah oui, c'est très très.
Quelle voix.
Smooth. Non, mais, voix de ouf. Mais elle est. Ouais, je le sais. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à aller regarder. Alors, soit aller te voir sur scène lorsque tu fais des concerts, ou tout simplement il y a des lives sur YouTube, etc. Notamment avec nos amis de Légendes d'Industrie, avec
Chrono. Ah, ben bien sûr.
C'est par Chrono que j'ai eu la connexion d'ailleurs.
Ok. On les salue, bien sûr.
Ils ont fait une session avec toi. On voit que ta voix en live. Voilà. Oscar, c'est juste. N'importe quoi.
Ouais, ouais. Moi, je t'avais vu au FGO.
Ah oui, c'est
Et c'était grave beau.
On salue aussi d'ailleurs.
T'avais fait un son en acapella, en espagnol et tout, qui nous avait tous mis sur le cul. Ma foi. C'est grave beau.
Est-ce que il y avait cette idée qu'il y a une espèce de scène d'artistes plus ou moins émergents qui se revendiquent d'une influence R&B et des gens qui se côtoient et qui... Ouais, voilà, cette idée de scène un peu, ça vous paraît juste de dire ça ou pas?
Un peu.
Elle a dit non de la tête.
Après, moi en tout cas, comme je te disais, comme j'ai fait beaucoup de sons avec Enchanté Julia, on a à cœur de défendre un peu cette musique-là. Enfin, en tout cas, de dire qu'on fait une musique avec des influences plutôt soul, R&B, néo-soul, quoi. Mais en français. Et que du coup, on a l'impression que petit à petit, ça devient, il y a de plus en plus d'artistes qui se mettent un peu sous ce style-là. Ouais. Donc après, je sais pas exactement. Moi, en tout cas, effectivement, c'est vrai que après avoir rencontré Enchanté Julia et Viel, du coup, Prince Wally, Luigi Turi, etc., j'ai eu l'impression d'avoir accès justement à un microcosme d'artistes qui sont assez proches artistiquement, même si en vrai. Il y a des grosses différences entre la musique de Luigi et de Enchanté Julia, évidemment. Mais je pense que ça peut être des artistes qui sont peut-être sensibles à des influences musicales communes, quoi. Donc, plus dans ce sens-là, je dirais.
Et toi, Anaïs, ça te parle pas dans ton cas, toi, personnel, par exemple, ça?
En fait, je rejoins un peu Oscar dans le truc où y a tout cet écosystème où on fait à peu près tous... c'est un peu les mêmes sonorités, genre c'est les mêmes fusions. Moi, je suis pour de parler des fusions, mais tout le mouvement, le R&B, il existe ou pas ? Moi, ça me gêne, ça, parce que je trouve...
Ça te limite ?
En fait, je trouve que c'est limitant, en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas que du R&B, genre, même dans ce que tu fais, Oscar, genre, il y a tellement plus que le R&B, et je trouve que juste de dire que c'est du R&B, ça limite la palette qu'on a tous. Mais aussi, je pense que... Enfin, j'apprends aussi avec le temps que peut-être moi, j'ai une autre perspective parce que c'est pas ici que j'ai commencé la musique. Et du coup, au Canada, aux États-Unis, c'est pas un mouvement comme ici, en fait. Parce que le R&B, c'est normal. C'est de la musique là-bas. Alors qu'ici, c'est un truc, il n'y a pas vraiment eu cette scène. Ouais. Donc, c'est normal que les gens en revendiquent. Mais du coup, moi, en venant de l'extérieur, je me sens un peu...
R&B français, moi, à titre personnel, je trouve que c'est plus que limitant. C'est limite péjoratif, en vrai, tu vois. Parce qu'il y a le R&B tu vois, qu'on a eu, nous, dans les 90s. Après, il y a une scène qui a commencé à émerger fin des 90s, genre les Nubians, c'était de la New Soul. Il y avait Aphrodisiac, qui proposait un truc qui était moins R&B, genre adaptation de Babyface en français, qui était horrible, tu vois. Et après, pour les gens, le R&B, moi, je pense à Matthew Stone, je pense à Tragédie, et tu vois, c'est tragique, en fait, de penser ça.
Même si Matthew Stone, en vrai, le premier album, c'était pas si mal. Alors, il a très mal tourné, malheureusement.
Matthew Stone, les sonorités, c'était... c'était éclaté, en fait. C'était...
R&B de rue, c'était bien.
Mais non, c'est parce que t'avais 12 ans, mais non, c'était pas bien.
On avait parlé. Est-ce que tu te rappelles? On avait fait un épisode sur le R&B avec Rhoda, qui a sorti un livre sur le R&B français.
J'ai lu.
C'est vrai, tu l'as lu? Cool. Tu as vu t'as le bouquin
En fait oui mais c'est en fait justement c'est enfin parce qu'il y a un petit moment où elle parle de Enchanté Julia dedans et donc du coup Julia est en mode regardez un livre il y a mon nom dedans et tout donc du coup j'ai quand même feuilleté le bouquin tu vois.
Voilà. Et on avait pas mal discuté effectivement cette différence entre le monde anglo-saxon et la France, à savoir qu'en fait aux États-Unis, il y a toujours eu un respect, une scène hyper vivante du R&B. Il n'y a jamais eu en fait de retour du R&B parce que le R&B n'est jamais mort.
Il n'est jamais parti. Dans le monde anglo-saxon.
Par contre, il y a eu des phases, tu sais, les Tony Braxton, machin.
Oui, bien sûr. Il y a eu des figures qui sont succédées en fonction des époques, des sonorités différentes, etc.
Enfin, même eux, ils parlaient de New Soul à un moment donné. Ouais. C'est-à-dire que même pour eux, l'étiquette R&B était peut-être un peu trop sirop d'érable,
C'est des styles différents.
Ouais.
Je pense plutôt.
En fait, tu sais, c'était vraiment. D'ailleurs, on en parlait dans l'émission avec Rhoda. C'était ce qu'on a appelé néo-soul, ça a été vraiment pour parler de D'Angelo, d'Eric Abadou, qui avait vraiment une spécificité, un son assez spécifique, tu vois, vraiment très spécial. Mais en fait, c'était presque un peu à côté du R&B, tu vois. Ça n'a pas remplacé ou... Même si c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, j'avais le sentiment, moi, à un moment, par exemple, que c'était plus cool de se dire, ouais, moi, je suis un peu en influence néo-soul.
Ouais.
Et on disait plus, on disait surtout pas R&B. Oui, alors qu'en fait, c'était aussi hyper influencé R&B. On préférait dire néo-soul.
Ouais.
Et là, ça y est, on réassume un peu, j'ai l'impression, le truc R&B. Effectivement, ce dont tu parlais, Anaïs, c'est en France, il y a eu un moment un peu, c'était vu comme une musique ultra commerciale, péjorative. Ouais. C'est péjoratif comme truc. Alors qu'en fait, il y a eu une scène R&B qui a été importante tout au long aussi en France, mais pas commercialement, elle n'était pas visible, etc. Et le grand public en a une image un peu négative parfois. Mmh, mais il y a un renversement, t'es d'accord avec ça, Oscar, quand même ?
Oui, je pense. Ouais. J'ai le sentiment que, de même que pour se revendiquer du jazz, ça passe mieux maintenant. Je sais pas, mais bon, après, je revendique pas non plus. Enfin, tu sais, j'ai pas l'impression d'être en portée de standard en mode c'est le R&B et tout, parce que effectivement, la réalité des choses, c'est que déjà, de ma part, c'est quand même vraiment une appropriation d'une culture qui ne m'appartient pas. Et donc, du coup, tout l'enjeu, c'est d'en faire quelque chose en français, un truc qui soit un mélange effectivement de la somme de mes influences et tout, et qui effectivement vont aussi un peu au-delà du R&B, qui sont aussi autour de la soul, de la folk, etc. Enfin bon, après j'avoue beaucoup de musique afro-américaine de manière générale, parce que moi c'est les musiques que j'ai le plus écoutées, je pense, et que je continue de plus écouter.
Quelle période
Moi là en ce moment, je redécouvre beaucoup les artistes de la Motown. Okay. Parce qu'au final, c'est une période que j'ai pas tant connue que ça. Et en fait, c'est aussi pour ça que, en fait, pour moi maintenant, le R&B, je pense à Stevie Wonder. En fait, je pense pas, tu vois, genre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas les mêmes référentiels un peu. Mais oui, en ce moment, j'écoute beaucoup Sly and the Family Stone. Je découvre un peu Diana Ross aussi, Donna Summer, etc. Parce qu'en fait, pareil, tu vois, genre même la période disco, j'avais pas capté que aussi ça venait de la Motown, etc. Donc, en fait, j'aime bien voir toutes les filiations qui sont sorties de cette époque-là et tout. Et voilà, okay. Je suis grave dans ça.
Peut-être qu'on peut s'écouter justement sur ton album Ma Voix, un morceau qui serait aux influences multiples, qui toi un peu vraiment tu vois est symbolique de ça, du mélange des genres. T'en aurais un?
Ouais,
en tête?
Grave. Je trouve le morceau Ma Voix justement éponyme, ouais. J'aime bien pour ça.
Et ben on s'écoute un extrait, allez, Ma Voix.
Je pense, je vois les années derrière moi, parfois je ne sais pas qui est celui que je vois sur les photos de l'époque. Mon visage plein de reproches, pourquoi je me sentais si moche? En vrai, je revois tout ce que j'ai laissé là-bas, mon désir, mon bazar, et cette fille qui n'en voulait pas. J'ai de la chance, en tout cas, quand je repense à mon ancien moi, celui qui n'aimait pas le son de sa voix.
Super stylé. Hein.
C'est bien aussi ça. Hein.
Super stylé.
Ouais.
Je dirais que t'es en featuring avec 12 personnes. La prod, la pouf.
J'adore.
Tu disais à un moment, Anaïs, Oscar, tu pourras réagir aussi à ça. Que, ouais. Bon, c'est la limite des étiquettes, quoi. C'est-à-dire que, ouais, on se restreint à devoir mettre des mots et tout. Toi, ton regard, c'est quoi? C'est qu'en fait, les artistes, ils sont rarement dans ces considérations-là. C'est surtout avant tout quand on doit vendre de la musique, entre guillemets, qu'il faut la labelliser.
Ouais. Je pense que, enfin, peut-être, en tout cas, moi, ma démarche, c'est je suis contre les catégories. Je pense que c'est essentiel, mais en fait, j'ai l'impression que c'est avant que c'était essentiel, parce qu'avant, fallait passer à la radio, donc fallait un seul truc à proposer sur une radio. Il y avait les vinyles, il fallait présenter les vinyles de toute façon. Mais maintenant, on a tellement accès à des outils qui... On a accès au monde, en fait. Et du coup, je trouve que c'est bête de venir et dire « moi, je fais que ça ». Je pense que la génération dans laquelle on est, on fait trop de trucs pour juste dire qu'on fait un truc. Donc moi, je suis assez anti-catégorie. Et aussi, je me dis, du coup, c'est dommage de vendre son projet et se dire, voilà ce que je fais, parce que les gens, après, ils ne vont pas avoir la même envie de te découvrir sur autre chose. Je pense que c'est bien de se présenter, genre, multitask, et de... Ouais. Voilà un peu.
C'est marrant parce que justement, on n'a jamais autant catégorisé aujourd'hui avec les playlists, avec tu vois, les plateformes. Donc, il y a encore plus de catégories qu'avant. Tu vois. Parce qu'avant, tu disais, bon, il y avait, tu sais, en France, il y avait variété, rock, groove, les musiques du monde, dès qu'il y avait un mec avec un harmonica ou une flûte de pan, tu vois. Et là, maintenant, tu as des sous-catégories, machin, etc.
Et en plus,
c'est archi précis maintenant, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, comment justement vous appréhendez ce truc-là, vous de. Est-ce que quand vous faites des morceaux, vous dites j'aimerais bien être featuré dans une playlist, genre tu vois, la playlist de la semaine
Non. En fait, justement, moi j'ai envie de me dire. Moi j'essaye vraiment de me dire ça serait trop stylé que justement les gens puissent se dire il y a que lui qui peut faire ça, tu vois.
Okay.
Bah bon, après ça c'est en mode de, c'est dans mon ego de musicien.
Je reconnais le son Oscar M, je te dis.
Ouais, c'est ça, tu vois, genre
t'as ta patte.
Je pense que je suis HPI, tu vois, je suis en mode je suis vraiment spécial. Voilà, donc j'ai vraiment besoin que les gens reconnaissent que je suis pas comme tout le monde. Mais non, en gros, du coup, je me sens à l'aise maintenant, en tout cas, avec l'idée de me dire bah oui, ce que je fais en gros, c'est un peu R&B, un peu soul, un peu pop et tout, parce que j'ai l'impression que en fait ça dépend à qui tu t'adresses, quoi. Je crois, tu vois, il y a des gens aussi, ça les aide un peu à identifier, quoi. Au moins ils savent que tu fais pas du métal, que tu fais pas, enfin voilà, c'est ça permet quand même globalement de visualiser t'es dans quel camp, tu vois.
Toi, par exemple, tu t'empêcherais à un moment donné de faire un morceau avec des sonorités métal ou...
Je pense que j'ai un souci de cohérence artistique, de construction d'un truc qui fait sens pour moi. Après, je pense que ça peut évoluer parce que factuellement, ça a déjà évolué entre ce que je faisais avant, même avant que je fasse mes morceaux en solo, j'avais un groupe qui était plus jazz, etc. Là, de mon premier EP jusqu'à mon premier album, j'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse évolution en termes d'esthétique aussi. Donc en fait, je pense effectivement que ça se limite à un certain truc, tu vois. Il y a plus de chances que je fasse un truc vers la bossa nova parce que j'ai plus de filiation avec cette musique-là qu'une musique métal, par exemple. Mais je pense que ça peut s'ouvrir quand même. Et puis je pense aussi qu'il y a ce truc de je compose ma musique aussi. Je joue la plupart de mes instruments sur mes morceaux, donc j'ai l'impression que j'essaie de construire des couleurs musicales, une atmosphère et donc du coup en fait j'ai pas forcément envie de partir dans tous les sens et comme c'est moi qui réalise mes morceaux, tu sais, c'est pas comme si j'étais un interprète qui va bosser avec un réal qui sait faire ça,
changer, ouais, okay.
Donc je pense que ça guide aussi d'une certaine manière mon esthétique musicale.
Je trouve ça très intéressant là, ce dont on parle, à savoir ce côté aussi peut-être qui aurait un aspect générationnel, Anaïs le disait, où aujourd'hui ça fait peut-être un peu moins sens. Parce que ça, c'est un truc, c'est vrai qu'on dit, je pense, régulièrement dans cette émission, c'est le fait que les musiciens d'aujourd'hui, ils ont été nourris par Internet et donc par en fait l'accès à toutes les musiques du monde. Quoi, un truc complètement fou. Alors, en fait, on ne trouve pas tout sur Internet, on s'entend bien. Mais globalement, il y a quand même un choix assez dingo. Vous avez ce sentiment, vous observez ça vous-même d'ailleurs dans vos parcours? C'est un truc qui. Vous avez pu un peu prendre à droite, à gauche et tout
Moi, j'ai l'impression que c'est plus, que j'étais plus inondé par la culture des États-Unis.
Okay.
Enfin, je veux dire, c'est quand même vachement plus ça que d'autres cultures, quoi. En vrai. Ouais. Donc, non. Bah, moi, j'ai une petite période où je me suis dit, je vais aller trouver un artiste éthiopien, tu sais, genre super deep et tout, mais en fait ça demande grave de taf, quoi. Donc en fait par rapport à la quantité de soft power que tu reçois au jour le jour, en fait moi j'avoue je me suis fait avoir par la soul et tout, et voilà, après je suis un peu resté sur ça.
Ouais, je pense que c'était un peu pareil. Mais j'ai quand même pu creuser un peu partout. Mon père, il était hyper fan de reggae. Donc, j'ai grandi avec du Bob Marley dans les oreilles, mais aussi du Jacques Brel à fond. Et après, beaucoup de jazz. Donc, je pense qu'il y a beaucoup ce truc anglophone, en tout cas. Et après, mes tantes et tout, c'était beaucoup de musique espagnole, lusophone. Mais je pense que la plus grande partie aussi, c'est très États-Unis et tout. Surtout dans le jazz, pour moi, ça a été que ça. Genre, j'en ai pas trouvé ailleurs.
Parce que quand on avait parlé avec Rhoda, on avait aussi évoqué quand même un bouleversement, alors qui concerne en partie le R&B, en fait la pop de manière générale, la pop française, qui était par exemple l'émergence massive de toutes les musiques afro-caribéennes, par exemple, dans la pop. Alors avec, évidemment, les exemples d'Aya Nakamura, de Taiki, des choses comme ça. Enfin, Taiki est un peu plus R&B encore. Mais
on dit Taiki.
Je crois qu'on dit Taiki, ouais. Okay. Je crois. Taiki. Je sais pas, j'ai jamais su.
Tu peux dire Taiki ou Taiki.
Ah ouais, on peut dire les deux.
Les deux.
Oui. Okay. Je sais pas, là je le dis avec beaucoup d'assurance. Il me semble que. Mais oui, il me semble que lui-même valide plusieurs, plusieurs orthographes.
En tout cas, il y a ce truc quand même, j'ai l'impression. Vous partagez pas cette idée qu'il y a eu un petit décentrement quand même. Alors c'est vrai, peut-être plus récent encore, c'est peut-être pas dans votre jeunesse, mais tu vois, on a évoqué, il faudra qu'on parle de tes collaborations avec des gens qui sont des Nigérians, qui sont dans l'afrobeat, etc. Le reggaeton à l'échelle mondiale, on voit quand même que l'industrie occidentale et sa musique, ce qu'elle produit, n'est plus uniquement le centre mais qu'il y a aussi d'autres pôles quand même qui commencent à être puissants, quoi, j'ai ce sentiment.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, de plus en plus, il y a le truc de être soi-même. Parce qu'avant, on voulait beaucoup calquer sur les États-Unis. Moi, je voyais ça beaucoup, genre Elvis Presley, Johnny Hallyday. Genre, il y avait toujours ce truc de... Il y avait le double, mais en France, etc. Et je trouve que maintenant, tout le monde revient un peu à son essence et à ce qu'il représente. Je pense qu'il y a beaucoup le truc de l'identité qui rentre dans les discussions. Alors qu'avant, c'était beaucoup... faut faire ce qui marche le plus, donc c'est le truc des États-Unis.
En fait, tu parles de Johnny, mais pour moi... C'était jusqu'aux années 2010, en vrai. Y a beaucoup d'artistes, tu vois, dans le rap, tout le monde voulait faire du Mobb Deep, du Smith & Wesson, des trucs comme ça. Y a quelques groupes à l'époque qui avaient déjà leur identité, genre, nous, on est des rappeurs français, on rappe en français, on met des Levi's cartonnés et tout, tu vois. Genre la Mafia Quinfri ou le Mystère Amer. Mais globalement, tout le monde voulait être des Américains de Paris, quoi, tu vois. Et donc, c'est pas que, tu vois, Johnny Hallyday, ouais, clairement, lui, en vrai, je me pose la question des fois, je me dis, est-ce que ce mec-là, en 2025, il aurait eu une carrière, en fait? Juste. Ouais.
Avec le temps, il s'est affranchi quand même un peu de la pure copie.
Oui, oui.
Avec le temps.
Avec le temps. Il s'entourait d'ailleurs de jeunes, etc. Tu sais,
oui,
je pense
et puis Goldman et machin, tu vois.
Yodelis.
Mais, Yodelis était sur la toute fin, mais.
M, il a fait des trucs avec M aussi, tu vois.
Sur la fin aussi, ouais.
Mais enfin, pour dire voilà, qu'il était capable.
Ouais, après, une fois que t'occupes le marché, mais je veux dire, au début, c'était littéralement le sous-titrage du rock. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à penser à ça, à cette période-là, tu vois, années 60 et tout, mais en vrai, vraiment, ça a duré très très longtemps en France que les artistes français essaient d'être des versions françaises de leur idole américaine. Je pense que ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on s'autorise à dire, tu vois. Rest in peace, Johnny, bien sûr.
Et vous arrivez quand même à... Il y a des moments où vous devez qualifier quand même votre musique dans votre carrière. Il y a des moments où, je sais pas, face aux médias, face à des, je sais pas, des distributeurs pour ensuite être rangé dans des bacs, j'en sais rien, chez le disquaire, etc. Il y a des moments où vous vous sentez obligé un peu de dire, bon, ok, j'assume, c'est vrai que je fais un peu ça, tu vois.
Ah ouais, ouais. Oui, en vrai, dans tous les cas, on en discute. Enfin, moi, j'en discute avec mon manager avant et puis on se dit, si on demande, tu dis en premier, tu dis ça. Et s'ils veulent
c'est
des...
quoi, toi, par exemple, pour toi, c'est quoi?
Nous, on dit genre R&B, soul, enfin, on dit R&B, pop et soul, je crois. Enfin, voilà, c'est, je sais plus exactement dans quel
ordre. Dans cet
ordre-là. Mais... Ouais, bah, voilà, quoi, il y a un truc. Mais même, tu vois, parfois, en fait, comme en vrai, dans la discographie, il y a quand même des morceaux, si tu les prends à part, ils peuvent aussi, en vrai, être mis dans d'autres trucs. Genre, je sais que, peut-être que pour certaines personnes, je suis plus en mode chanson française, en vrai, genre sur des petits trucs, tu vois. Donc en vrai, pour moi, c'est plus sur dans des contextes où genre on veut tourner, par exemple pendant un spectacle et tout. Où là, du coup, effectivement, sur les affiches, généralement, ils demandent de mettre un style pour les gens qui vont acheter leur billet, quoi. Voilà.
Mais déjà, question, votre musique, elle est disponible au format physique dans les bacs, parce qu'on parle des bacs et tout, mais
Moi, j'ai mon premier album en vinyle.
Ok.
Ouais. J'ai pas encore fait CD, mais je vais faire.
Ah, donc t'as commencé par le vinyle, ça c'est intéressant aussi.
Okay. Ouais, Anaïs, le P, vous en aviez pressé un peu ou...
Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, non.
Ça viendra dans le futur, peut-être pour les prochains projets.
Peut-être.
Ouais. T'es même pas. Ah, si, t'aimerais quand même. Ouais.
Oui.
Ouais. Bah, d'ailleurs, parce qu'on a écouté un deuxième morceau d'Oscar, il faut qu'on écoute aussi un deuxième morceau de ton album. Et peut-être d'ailleurs qui illustrerait ces influences, on disait être un peu plus soi-même et d'où l'on vient, etc. Peut-être dans une langue autre que le français, ça peut être intéressant.
Oui, il y a Elodie.
Ouais, ça te convient bon. J'avoue, je l'aime bien ce morceau.
Tumse şu nasrata o kelefey Sempre sonhando aí da vida aí E deixado sozinho Ela tem sorriso que o mundo não vê O sol fala muito de como é o paraíso. Ele quer saber.
Tu maîtrises ces langues, tu te sens à l'aise pour écrire des lyrics et tout.
En soi, je commence toujours par guitare ou piano, je pense. Okay. Et ensuite, en fait, je fais 3 top lines. Okay. Une en français, une en anglais, une en portugais.
À chaque fois.
Et après, je choisis celle où je sens qu'il y a le truc.
Parce que
les mélodies, elles ne sont pas les mêmes dépendamment de la langue. Okay. En tout cas, je trouve.
C'est dingue ça, j'ai jamais entendu un processus comme celui-là.
Mais c'est long.
Bah oui, c'est long.
Ça, après, tu peux faire genre différentes versions et tout, genre comme Michael Jackson, ouais. En mode version italien.
Je veux pas la fin de nous et
ouais,
tout.
Ça.
Ok. Mais du coup, parce que donc on parle d'être soi-même et toi, clairement, t'es pluriel au niveau des influences, etc. Citoyenne du monde un peu. Mais du coup, quand tu fais des morceaux comme ça, tu te dis, ça serait bien que ça pète au Brésil par exemple, ou tu vois.
Partout. Ouais. Je veux que ça pète partout.
Non, parce que c'est. Enfin, il y a des marchés où vraiment les artistes francophones, c'est compliqué de s'implanter.
Ouais.
Et là, en fait, toi, tu vises littéralement 3 continents, tu vois. C'est quand même pas mal.
Ouais. Bah, franchement, moi, c'est. Enfin. Mon but en premier, c'est. Enfin, c'est pas. Je me dis, je veux toucher tel endroit. Je me dis, je veux toucher partout, même si c'est pas l'endroit d'où vient la langue. Je me dis. J'ai envie que les gens ils résonnent avec mon message.
Ouais.
Mais c'est plus, je fais de la musique et je me dis, bah, j'ai envie de faire la musique que j'aime écouter. Genre la musique qui m'a toujours touchée depuis très petite. Donc c'est ça, un peu plus, c'est dans cet ordre-là. Donc oui, je vais être partout. Partout, mais oui.
Et si on doit parler à chacun de vos processus, justement un peu de création, d'enregistrement, etc. Toi, ça commence, tu dis guitare, piano, tu commences dans plusieurs langues, etc. En général, quoi, tu maquettes à la maison, tu t'enregistres et tout, et après...
Du coup, sur celle-là, c'est moi qui joue à la guitare. Okay. Donc, je l'enregistrais juste chez moi, et après, on a fait quelques petits trucs de production. Donc, en tout cas, avant, ce que je faisais, c'était beaucoup plus ça, c'était je maquettais tout à la maison... Et je me retrouve avec mes potes et je disais, bah voilà ce que j'ai fait. Moi, je sais pas produire de fou. Est-ce qu'on pourrait juste build up le truc? Et voilà, c'est un processus que j'ai eu pendant longtemps.
Et qui a évolué ces derniers temps.
Ouais, maintenant, ce que je fais, c'est. Bah, je passe plus mon temps au studio. Je maquette toujours à partir d'une base acoustique. Après, on construit autour de ça. C'est juste que c'est plus moi qui joue.
Tu composes même parfois en studio?
Ouais. Okay. Ouais, mais c'est juste, c'est plus moi qui joue sur les chansons, quoi. Je me dis, je sais pas aussi bien jouer que...
que Oscar, par exemple. Ouais, que Oscar. Et toi, Oscar, comment tu bosses un peu? C'est beaucoup pareil, tu maquettes beaucoup à la maison, t'as un home studio, c'est beaucoup ou alors plutôt ouais. avec des pros ou d'autres?
Non, moi, généralement, je travaille dans ma chambre, en vrai. J'ai pas vraiment de studio à proprement parler. Et là, en tout cas, sur cet album, ce qui a changé, c'est que, en gros, on bosse au même studio, en vrai, avec,
avec Anaïs. Tu peux le citer, vas-y.
Ouais, c'est le studio Noble à Belleville. Et donc, que moi, j'avais découvert à la base, parce qu'on a des potos en commun qui bossaient là-bas. Luigi a fait son album là-bas aussi, l'album Saison Zéro, donc le deuxième album sur lequel j'ai travaillé. Et c'est là que j'ai rencontré donc Clément Caric, l'ingé de là-bas, avec qui Anaïs travaille aussi. Et en fait, du coup, je lui ai proposé des démos que j'avais déjà faites chez moi. Après, j'ai aussi fait des petites résidences, pas forcément dans des studios, mais plutôt chez des potes ou tu sais, où genre on loue une petite maison à plusieurs et on fait un peu de musique histoire de sortir justement de ma chambre, parce que je trouve parfois c'est un peu enfermant, 9 mètres carrés psychologiquement pour faire des trucs. Et en fait, à partir de cette maquette là, on retravaille en vrai. Là, pour le coup, il y a vraiment des morceaux qui ont non seulement eu des versions très très différentes, mais aussi je crois que sur la quasi-totalité des morceaux, on a réenregistré les basses, les guitares, les batteries. Bon, on a fait des batteries acoustiques aussi avec un batteur. Les pianos, on les a enregistrés au studio Pigalle aussi. Enfin, on les a réenregistrés, etc. Il y a un orgue aussi qu'on a... Bref. Donc, en gros, on avait envie de... justement, vu qu'on est fan de Motown et tout, on voulait avoir des trucs qui sonnent vraiment dans une pièce, quoi. Donc,
même parfois jouer... tout ensemble enregistre, ou alors c'est quand même
non,
chacun.
Non, ça on n'a pas pu faire parce okay. que en fait souvent c'est moi qui joue les trucs. Ah ouais. Donc du coup je peux pas me dédoubler. Mais en vrai, j'aimerais bien arriver à faire ça, mais bon, après ça demande une autre dynamique aussi, aussi de groupe un peu avec d'autres musiciens et tout. Donc c'est un truc que j'ai envie de revivre aussi, parce que auparavant j'ai eu des expériences plus de groupe comme ça, où justement on enregistrait tous dans la même pièce et let's go, quoi. Limite on faisait juste les voix après, à part pour qu'il n'y ait pas trop de repisses, etc. Mais voilà. Donc là, c'est plus... je travaille, moi, de mon côté. Et ensuite, on retravaille en studio pour que ce soit... que ça sonne mieux, ouais. En gros.
Ce qu'on pourrait faire, c'est parce que c'est en filigrane depuis le début, là, Daz, le côté collaboratif, l'entourage, etc. Peut-être qu'on peut un peu évoquer cet aspect-là, parce que... la question, forcément, que je me pose, je pense qu'il y a une part, évidemment, de la musique, c'est des rencontres. Ça se passe toujours comme ça. On a besoin d'autres compétences, d'autres gens, etc., pour nous accompagner, pour nous aider. Après, je me suis dit aussi, mine de rien, dans le développement d'une carrière, quand on fait quelques collabs sympas, ça fait un peu d'exposition, c'est pas mal, quoi.
Ouais. Hein, pas vrai hein.
Ouais. Et encore, franchement.
Dis donc.
Vas-y, ouais.
Quoi? Parce que c'est vrai.
Mais oui, c'est vrai.
C'est pour ça que c'est drôle. Voilà.
Et en plus, Oscar, faut lui reconnaître ça. Il aurait pu jouer à cette carte-là. Il l'avait fait sur l'EP avant l'album.
Oui.
T'avais dessus featuring avec Luigi, avec Enchanté ouais. Julia et tout. Sur cet album, il n'y a que toi. Tu t'es dit non, je le refais pas. Alors Buffy, qu'il aurait pu, tu vois, essayer d'avoir un Luigi.
Ouais. En fait, justement, parce que comme j'ai fait beaucoup de collaborations auparavant, justement, j'avais aussi envie d'avoir ma discographie solo et être connu aussi pour ça. En vrai, je pense que j'avais aussi besoin de trouver mon truc, en fait. Mais en vrai, c'était pas en mode je regrette d'avoir fait ces collaborations, c'est pas du tout ça, c'est que juste, en fait, je pense que j'avais besoin de passer par là aussi pour me trouver musicalement.
Et
en fait,
un peu aussi peut-être de ces liens ou un peu de...
Ouais, mais en fait, justement, moi je pense que, l'une des raisons pour laquelle j'étais en mesure de faire mon premier album, c'est aussi parce qu'en 2023, j'ai bossé sur celui de Luigi et sur Boys Volume 2 de Prince Wally. C'est aussi en voyant d'autres artistes faire leurs albums que j'ai pu me dire, donc en fait, faut que j'appréhende le truc d'une autre manière, parce que jusque là, j'avais fait que des EP. Et en vrai, sur mon album, Il y a 14 titres, c'est plus que mes deux EP d'avant, tu vois, ensemble. Donc en vrai, je, enfin, c'était conscientisé comme ça. Après, à la base, quand j'ai commencé mon album, j'ai quand même invité, enfin, en fait, justement, Luigi, on a fait, on s'était revus pour travailler sur des sons, etc. Et en fait, les choses se sont fait comme ça, où genre petit à petit, moi, j'ai avancé sur les morceaux et j'ai commencé à me dire, en fait, c'est pas mal. Si c'est un album solo, quoi. Vraiment, genre, c'est wham, tu vois.
14 titres.
Ouais.
Ouais, 14 titres solo, c'est un beau projet, ouais.
Merci.
Ça t'est passé par l'esprit, quand même, l'idée de, bon, c'est mon premier album, j'avoue que si j'ai un feat avec Luigi.
Bah oui, en vrai, genre, ça m'aurait fait plaisir, mais à la fois, comme ça s'est pas fait comme ça, j'étais en mode, franchement, c'est mieux. D'une certaine manière, je trouve que même, c'est pas mal parce que tu sais, c'est un peu genre, on a fait déjà un son ensemble, j'ai travaillé sur son album et tout, et maintenant, petit vie, tu vois, genre vraiment vol de tes propres ailes, tu vois. Donc en fait, j'aime bien aussi le fait de me dire que maintenant c'est aussi à moi de faire mes preuves avec mes trucs solo, et que de toute façon, maintenant que je l'ai sorti cet album, bah je peux me remettre de toute façon à faire des collabs, etc.
Parce que c'est après, on parlera aussi à Naïs de ton cas, des collaborations. Il y a un truc, nous, qu'on a observé avec plusieurs invités, qui sont des gens qui ont souvent été, qui ont accompagné beaucoup d'autres gens. Je pense, on avait reçu par exemple un super trompettiste qui s'appelle Ludovic Louis, qui a notamment tourné pendant des années avec Lenny Kravitz.
Ok.
Et Florent Pagny.
Wow.
Et il dormait chez Patrice Rochon, absolument.
Wow.
C'est ça qui m'a tabassé.
C'est qui... Ils se connaissent bien. On a reçu il y a pas très longtemps aussi un réalisateur qui s'appelle Frédéric Lowe. Qui a fait pareil, il a fait tellement de trucs, Maxime Le Forestier, Daniel Dark, il a fait des trucs, il a fait un album avec Pete Doherty, il a fait énormément de choses hyper bien. Et en fait, je pense à ces profils parce que c'est des mecs qui ont des qualités exceptionnelles, c'est des grands musiciens, des grands compositeurs, etc. Et ils ont essayé de développer des carrières un peu solo, avec humilité en général, en parallèle. Et clairement, c'est jamais, tu vois, ce qui leur a amené des sous, c'est jamais ce qui leur a permis de briller, d'être très visible, etc. Ils le faisaient aussi parce qu'ils en avaient besoin, je pense. Est-ce que toi, vu ton profil, c'est un truc un peu qui te questionne parfois, te dire, ah, putain, j'ai pas envie d'être toujours le mec derrière les autres.
Ah ouais. Bah en fait, là clairement maintenant, je me dis que j'ai envie effectivement de me présenter plus comme chanteur, quoi, et pas comme celui qui a produit tel artiste. Donc j'essaie de m'en donner les moyens aussi, parce que je sais que moi, ce qui me plaît, c'est aussi la scène, c'est de pouvoir défendre mes trucs. Mais en fait, force est de constater que moi, j'ai besoin de temps, enfin, rien que pour m'accepter en tant que chanteur, justement. En vrai, c'est de ça qui parle l'album aussi, hein. C'est comment de base, j'aime pas ma voix, et genre du coup, je passe des années à essayer juste d'avoir confiance dans le truc, parce que genre sinon, je fais que me remettre en question. En fait, j'ai pas la confiance et les appuis nécessaires pour faire ma carrière solo, quoi. Donc en fait, je suis en mode j'essaye, tu vois, on va voir comment ça se passe, mais je sais que moi, c'est plus vers là que j'ai envie d'aller, et c'est aussi pour ça que là, ces derniers mois / années, j'ai mis un peu aussi de côté, genre, même si j'arrête pas complètement, mais je consacre mon énergie plus à faire mes morceaux, parce qu'à un moment donné, bah, j'ai pris conscience aussi que fallait que je fasse cette démarche là, quoi, de travailler plus sur moi, de prendre des cours de chant, justement, de voilà. Donc en vrai, après, l'avenir nous le dira, hein, si ça prend ou pas.
Ça peut t'arriver d'avoir un truc super sous la main et tout. Et ouais. À la base, il était destiné à un artiste, finalement tu dis, oh putain, je le garde pas.
Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de hits sous la main, mais ça pourrait être sympa. Non, ça m'est encore jamais arrivé.
Toi, Anaïs, bon, la question se pose forcément différemment, parce que tout de suite, dès le début de ta carrière, ça a été la question, voilà, de l'artiste interprète, t'étais pas derrière des gens, etc. Par contre, les collaborations, ça a été très rapidement le cas. Est-ce que d'ailleurs, c'est... parce que là, c'est un truc très impressionnant avec Wizkid. Enfin, Wizkid, c'est une star internationale. C'est un truc de malade. C'est passé justement par producteur, par P-Prime, ou parce que
Ouais, bah du coup, en fait... ma sœur, c'est ma sœur. Et je dois tout à ma sœur. Okay. Mais en gros, ma sœur, c'est une DA et aussi une danseuse. Et en fait, il y a un ou deux ans, il y a trois ans, du coup, elle avait fait une vidéo et elle dansait sur une chanson que P-Prime avait produite. Alors, en gros, il l'avait suivie. Ensuite, il lui a dit, écoute, ma petite sœur, elle chante. Et du coup, on a pris contact. On est resté en contact pendant très longtemps. Et j'étais encore à l'université. Et ensuite, quand je finis mes études, un mois après avoir reçu mon diplôme, je reçois un message de Prime qui me dit « Écoute, il y a Wizkid qui voudrait te rencontrer. » Il était 3h du matin, j'y croyais pas trop. Et puis moi, je sais c'est quoi l'impact de Wizkid, parce que j'ai grandi au Gabon, on avait toute sa musique tout le temps. La plupart de mes potes au Canada sont des Nigérians. Et du coup, j'y croyais pas. Du coup, j'étais genre « Ouais, bien sûr, je vais venir. » Et 4 heures plus tard, je pense, ou 5 heures plus tard, j'étais à Londres. Et il y avait Wizkid. Et ça s'est super bien passé. Et voilà. Donc,
Ouais. On peut s'écouter le morceau.
Ça a l'air simple, hein, comme ça. Ouais.
voilà.
T'as pas eu ça, toi, Oscar, à 3h du matin, Drake, Kenny.
Et non.
Écoutons le morceau avec Wizkid.
Voilà.
Ça sera plus simple. Donc, ça, il s'appelle Slow, le morceau.
Time while we can they rush. Titilala, titilala. Baby, they do what we do, titilala. I leave my shit on top, my shit, titilala. Take a time with it, as long as you're fine with it.
Alright, I die, but I love me, I live it. Can't let you wait on my body. Let you go, gonna burden above me. No time to float on
your. Ce qui est dingue.
Solide.
C'est que. Déjà, tu te retrouves en featuring donc avec une star mondiale. Et en fait, il te laisse vachement de place. C'est-à-dire que c'est toi qui ouvres le morceau
bon, en fait,
sur le refrain.
Mais déjà, même dans la démarche, genre, je trouve, pendant qu'on a bossé sur le truc, c'est... je suis arrivée, il m'a dit « Écoute, moi, je t'ai vu sur Internet. Est-ce que je peux écouter ce que tu fais ?» J'avais pas sorti, j'avais rien sorti, genre, j'avais enlevé toutes les chansons des plateformes. Du coup, je lui ai fait écouter Colors, je lui ai fait écouter Elodie. Et il était genre « Ok, je veux des chansons comme ça avec toi. » je suis gauchère, il a cherché une guitare left-handed et tout. Genre, il a tout fait pour me mettre dans les conditions. Parce que je suis très timide. Et du coup. Et du coup, je suis arrivée, j'étais trop timide, je parlais pas. Et il m'a grave mis à l'aise. Et du coup, en fait, je trouve le son, il a. C'est pour ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'espace pour moi. C'est il m'a laissé cet espace, en vrai. Ouais.
Mais genre, est-ce que y avait déjà ce morceau là où vous l'avez créé ensemble ?
Non, en fait, je suis arrivée, on a tourné pendant quelques heures. Ouais. Après, il y a un des producteurs qui s'appelle P2J, il avait une loupe de guitare que un autre producteur avait faite, et j'ai commencé à écrire ça. Et en fait, je devais juste faire 24 heures, du coup, je devais repartir le lendemain.
Ouais.
Et en fait, Wizkid me dit, bon, tu fais quoi demain, j'étais genre, je rentre à Paris, il fait, t'es sûr ? J'étais genre, non ! Et du coup, je suis restée un jour en extra, et en fait, le lendemain, je reviens, il avait écrit ses paroles autour de ce que j'avais écrit. Donc en vrai, la chanson, c'est moi qui l'avais commencé. Et...
Ouais.
Mais je savais pas ce que j'étais censée faire là, en fait. Je suis juste venue parce qu'il m'avait demandé de...
Mais justement, comment ça marche quand tu te retrouves en stud avec donc, un artiste confirmé et tout ? Juste au niveau du biz, les droits,
sachant que donc t'es marqué, c'est vraiment marqué featuring Anaïs Cardo, t'es crédité complètement sur le morceau, même vraiment en featuring direct, au-delà des crédits caché entre guillemets, ou qu'on voit moins directement.
Ouais.
Là, par exemple, juste pour donner une idée de l'impact du morceau, c'est plus de 23 millions de streams sur Spotify.
Ouais.
Donc, ça veut dire que forcément, effectivement, autour, il y a une économie qui s'est créée, même uniquement de ce morceau-là. Tu vois. C'est, comment ça se passe, comme le demandait Daz
En tout cas, dans mon cas, il y a le partage du master. Donc, il y a le partage du master, donc de ce qui est généré par les streams. Il y a ça, et après il y a le publishing, c'est
les éditions
du coup. Il y a ça, donc c'est partageant de moi, les producteurs et Wizkid.
Ça aide dans une carrière en développement c'est une ressource économique non négligeable qui te permet de te lancer pour produire d'autres trucs.
Ouais, franchement, oui, de fou, genre oui. Oui. J'ai payé ma table de chevet avec, bon, genre, ça m'a grave.
Moi, si c'est que la table de chevet, c'est pas.
Non,
c'est une table
de luxe.
Alors en quoi?
En marbre.
Mais oui, franchement, ça aide. Je trouve ça aide. Après, je pense qu'il y a un peu ce truc où les gens qui sont pas forcément dans la musique, ils savent pas, mais les sous, on les reçoit pas directement.
Ouais.
Du coup, avant d'avoir accès à ces sous-là, il y a quand même un gros vide qui est là, quoi. Donc,
de toute façon, c'est sorti en 2024, ça, donc c'est encore relativement récent.
C'est ça. Ouais. Donc ça prend un peu de temps, donc je sais pas c'est quoi l'ampleur non plus de ce que ça génère. Vraiment, j'en ai aucune idée. Okay. J'en ai aucune idée, ouais.
Est-ce qu'il y a... Il y a un autre artiste important nigérien avec qui tu as bossé, qui est Ashake. Alors, c'est pas la star mondiale qui est Wizkid, mais je crois que sur le continent africain, par contre, il représente quelque chose.
Ouais.
Ça s'est passé aussi un peu de la même manière. C'est des trucs d'Insta, limite de DM et tout.
Ashake, c'est encore plus marrant parce que le son, les chansons, elles sont sorties avant celles de Wizkid, mais je l'ai rencontré après Wizkid. Donc, j'ai rencontré Ashake 3 jours après mon concert.
Ah ouais?
Oui, j'étais chez moi et Prime m'envoie la même chose. Il y a Ashake qui veut te voir. J'étais genre, mais...
Comme quoi, les producteurs, les beatmakers, enfin les mecs qui sont derrière, et ils peuvent faire des hubs là.
Et du coup, il me dit, il y a Ashake qui veut te voir et tout. Est-ce que tu veux venir à Londres? Le lendemain, j'étais à Londres. Et en gros, il avait besoin d'aide pour écrire en espagnol sur une de ses chansons. Mais aussi, il avait un couplet vide, enfin un refrain vide, et il voulait que je fasse de l'arrangement vocal parce que je fais beaucoup de trucs, donc harmonie et tout. Et du coup, je suis allée et on me l'a fait en une journée, enfin en une soirée plutôt. Et après ouais. Donc c'est un peu le même process.
Tu voulais dire un truc de...
Non.
C'est intéressant parce qu'il y a presque. Enfin, je sais pas si c'est juste de faire cette distinction. Vous me dites, parce que ça te concerne aussi, Oscar. Il y a parfois la collaboration où on arrive comme un artiste à part entière, entre guillemets, comme un interprète à qui on va laisser de la place, c'est le featuring, machin, etc. Puis évidemment, les collaborations, on peut venir, par exemple, en étant un
support,
musicien de studio, par exemple, qui va poser une guitare, des choses comme ça, etc. Est-ce que c'est vraiment deux activités différentes? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce que, au début, en général, on te laisse juste, bon, allez, vas-y. Je sais, par exemple, alors je sais pas si c'est vrai sur Discogs, j'ai vu que t'as bossé sur un album de Julien Doré, mais t'as fait un tout petit truc, tu vois.
Ouais. Oui.
C'est un bon exemple, ça, par exemple. Enfin, tu vois.
Là, ouais. En fait, l'histoire avec, donc c'est sur l'album Aimé. Et, parce que, donc, du coup, j'avais rencontré, un de ses réalisateurs. Et donc qui m'avait proposé de bosser sur cet album avec un autre pote qui fait de la musique qui s'appelle Sintar, et parce que je crois que Julien Doré à la base il voulait faire des sons parce qu'il kiffait bien Anderson .Paak et Ethan Le Cat et tout. Du coup j'étais en mode ah bon. Et genre donc du coup on lui a proposé des trucs un peu comme ça. Bon, après moi en vrai je suis incapable de faire du Anderson .Paak ou du Ethan Le Cat, mais c'est des rêves que j'ai, donc du coup je voyais un peu, enfin je lui ai proposé des trucs comme ça. Bon, en fait, il se trouve que finalement, il s'est ravisé parce qu'il s'est rendu compte que sa direction artistique était beaucoup plus pop et que finalement, ce qu'on lui proposait, c'était trop loin de ce qu'il voulait faire, quoi. Mais il a quand même gardé genre une piste de synthé, je pense, sur un track, enfin un truc vraiment, un tout petit truc, quoi.
C'est rigolo. Voilà, donc en fait, vous aviez bossé pour des morceaux qui n'ont pas vu le jour, mais ils ont gardé quand même. Il y avait des stems comme ça.
En fait, les morceaux ont vu le jour. Tous les morceaux sur lesquels j'ai travaillé sont sortis sur cet album, mais sous des formes complètement différentes. Parce qu'après, il a travaillé, je crois, avec Tristan Salvati, qui fait les albums de Angèle notamment. Voilà. Ça se fait comme ça. Mais donc, quelque part sur un ordinateur, il y a des versions Turn the Cat de
Julien Doré.
Incroyable.
Et toi, tu le. Parce que, donc, toi, tu viens en studio, tu fais ce qu'on te demande et le truc pour lequel vous étiez OK. après tu te barres. Et quand t'écoutes le morceau, en fait, il l'a réarrangé et c'est plus du tout.
Ah non, non, bah parce qu'après, on nous a dit, bah ouais, en fait, il a pas gardé les trucs qu'on a fait. En vrai, ça va, c'était quand
d'accord.
même.
Ok, c'est pas genre transformation
cool,
dans le.
Genre, j'étais bien payé. Moi, je me suis acheté une batterie pour le coup.
T'étais payé à la session, en gros, et voilà quoi.
Ouais, j'ai eu un cachet par jour, travailler vraiment, ce qui arrive rarement, d'être vraiment payé, genre, pour le nombre de jours que tu as réellement travaillé. Donc, en vrai, non, c'était hyper cool. Enfin. En vrai, aucun regret. Mais en plus, j'étais hyper timide aussi sur ce truc-là parce que c'était ma première expérience un peu. Tu sais, j'étais en mode, mais c'est le mec de la télé, quoi, tu vois. Donc du coup, enfin, en plus, voilà, j'avais très peu d'expérience sur ça. Je pense que j'avais pas forcément une capacité aussi à m'adapter aux attentes d'un artiste. Je pense qu'il y a un truc, genre un skill de réalisateur. Qui est, enfin, où, bien sûr, on vient te chercher parce que tu fais tel truc, mais t'as quand même une capacité aussi à comprendre, à aller proposer une direction artistique qui marche avec l'interprète et tout, où là je pense que moi j'ai fait mon truc quoi, et mon truc il était pas cohérent avec ce que lui cherchait, donc voilà, ça s'est arrêté là.
On rappelle brièvement le rôle du réalisateur, c'est un truc dont on a beaucoup parlé justement avec Fred Lowe parce que c'est son métier. En fait c'est ce qu'on appelle aussi parfois le producteur, c'est-à-dire on lui amène des compositions ou des maquettes, ce genre de choses, et il va développer avec l'artiste de nouvelles formes, de nouveaux arrangements éventuellement, enregistrer des musiciens professionnels, etc. si besoin, enfin bon voilà.
Ouais. Oui, en gros, c'est de passer d'une idée musicale, d'une composition, à un produit fini qu'on peut vendre, enfin qu'on peut mixer, masteriser et vendre, quoi. Donc toute la partie enregistrement, d'une certaine manière, l'arrangement aussi peut rentrer dans. Et oui, après et le truc technique aussi de trouver le lieu d'enregistrement, de trouver les musiciens, les personnes ressources quoi pour faire tout ça, quoi. Mais oui, en gros, moi en tout cas, je fais un peu tout, quoi. Enfin, je fais le
y compris de la mix, compo, mastering éventuellement.
Non, pardon, je m'arrête, je pré-mixe et après j'envoie pour mixer. Mais en gros, enfin, c'est que je suis compositeur, interprète et réel quoi, en gros. Mais j'ai mis longtemps à capter que je faisais tout ça. Voilà.
Ce que j'évoquais à la base, ces trucs un peu qui j'ai l'impression que c'est pas exactement la même chose, qu'on arrive vraiment et qu'on apporte juste une petite touche, et ou par rapport à quand on réal ou quand on arrive vraiment en tant qu'interprète qui a la place en futuring et tout. Est-ce que c'est un peu le truc schématique de, en gros, on est en début de carrière, on te fait confiance, tu vas pouvoir poser une guitare ou éventuellement un chœur, tu vas commencer que la voix, et puis ensuite petit à petit tu grindes, enfin tu montes, et là on te laisse un peu plus de place, ou en fait c'est plus flou que ça, même quelqu'un de très connu peut venir juste pour le plaisir poser une guitare, j'en sais rien, tu vois. C'est...
Moi, je pense que ça a pas à voir avec l'échelle, enfin avec où la personne se place. Je pense que ça a à voir juste avec. En tout cas, j'espère. J'espère que ça a vraiment à voir avec l'amour de la musique et ce que la personne. Elle pense pouvoir t'apporter en fait
un besoin ou un contact, genre, ah là j'ai un truc ce que disais un peu, là, j'ai un truc libre, un refrain qui est un peu, tu le disais, un refrain qui est pas voilà, tiens vas-y on essaie.
Après ça n'empêche que
peut-être que l'artiste peut-être l'entourage va dire
oui, après ça n'empêche, je pense qu'il y a aussi les trucs d'ego, donc ils vont se dire bah c'est pas ton niveau, c'est pas ta place et tout. Mais je pense que c'est là où c'est important de tomber sur les bonnes personnes.
Parce que le monde de la musique, pour beaucoup de gens, y compris des musiciens, c'est un monde qui peut paraître fermé, difficile d'accès, ou atteindre certains cercles, c'est dur, quoi. C'est pas que l'amour de la musique, malheureusement, qui prévaut, quoi, ou les compétences de chacun.
C'est du réseau aussi, là, bien sûr.
Ouais, il y a du réseau.
Qu'est-ce que vous en pensez, toi?
Moi, je pense qu'il y a il y a de tout. j'aime croire, j'aime voir la lumière. Donc, je pense qu'il y a de tout, genre... Forcément, il y a du réseau, mais il y a aussi un amour pour ce que quelqu'un propose pour qu'on puisse l'inclure dans quelque chose. Sinon, ça n'a pas de sens. Enfin, si on t'inclut dans quelque chose, c'est qu'on sait ce que tu apportes et on sait qu'il n'y a que toi qui peux l'apporter.
Puis on a toujours en plus le storytelling là, de je composais dans ma chambre, je l'ai posté sur YouTube et le truc explose.
Et c'est le cas parfois.
C'est ce qui est arrivé à Anaïs, quoi.
Ouais. En vrai, c'est le cas parfois. Je pense qu'il y a plusieurs types. Enfin, voilà, quoi. Il y a plusieurs types de carrières. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup par les rencontres avec d'autres artistes, quoi. Qui me font rencontrer d'autres artistes, qui me font rencontrer d'autres artistes. Donc, c'est pour ça que, en vrai, genre aussi, moi, j'ai plus l'impression que j'ai le modèle succès d'estime avant succès grand. J'espère que ce sera pas tout
ça. Les sous arriveront aussi.
Non, mais c'est marrant parce que du coup, il y a vous deux, vous avez deux approches qui ont été un petit peu différentes, quoi. Mmh.
Ouais.
Donc des collaborations, être repéré aussi, parce que on parle beaucoup ces dernières années des industries plantes, tu vois. Donc des artistes qui donnent une impression d'être full amateur, ça a été fait genre tourner devant un Buffalo Grill genre à l'arrache, alors qu'en fait il y a une équipe derrière, et tu vois.
Alors c'est vrai que ça c'est un sujet dont on peut parler. Là tu parles en plus spécifiquement de Mickey, effectivement, pour le,
oui,
pour le Buffalo,
oui, que je salue aussi,
hein. Ce qui en fait c'est des sujets hyper compliqués, mmh, et intéressants. Je suis d'accord que la communication, parfois, on essaie de nous faire passer quelque chose, ah ouais, comme du do-it-yourself, etc. Après, ouais, j'ai lu des articles assez intéressants qui disaient, le problème déjà, c'est que souvent le terme industrie plante, on va l'utiliser surtout pour les artistes femmes, déjà.
Mmh. C'est vrai.
Pour les hommes.
Effectivement.
Et que tout de suite, il y a une espèce de suspicion et qui concerne pas tout le monde. C'est là où c'est un problème, tu vois. Après, par contre, sur l'idée de dire, hey, parfois quand même, il y a des gros labels ou des majors qui essaient de nous faire passer pour quelqu'un, ouais, pour ce qu'il n'est pas. Ça existe, c'est une certitude, on a le droit de le critiquer. Après, c'est juste effectivement parfois, ouais, l'utilisation du terme industrie plante qui
n'est, ah oui,
pas toujours...
Ah oui, c'est plus connoté sur les chanteuses, ouais, bah, enfin, les artistes féminines.
On observe qu'on reproche, ouais, ça beaucoup plus facilement à des femmes, dans les faits, tu vois, et qu'elles deviennent beaucoup plus facilement la cible des réseaux en mode « Hey, toi, t'es pas une vraie », que sur les artistes, ouais, hommes, par exemple.
Moi, je rapproche beaucoup de trucs d'industrie plante avec... Illuminati. En fait,
avec Illuminati.
En fait, j'ai tellement l'impression les gens ils veulent pas accepter.
Ah, ouais,
voilà, tout, hein. Les gens ils peuvent pas accepter quelqu'un à travailler genre de fou pour en arriver à un point,
ouais,
que faut toujours trouver une justification pour dire à toi tu l'as eu facilement, c'est impossible ce que t'as fait. Du coup pour moi c'est à peu près les mêmes trucs. Après il y a des artistes. Je sais pas.
Enfin, c'est aussi ouais, un vrai marketing d'essayer, non, de, ouais, faire passer un, ouais, truc. Pour...
On doit pouvoir critiquer effectivement, ouais, le fait que parfois, ouais, la musique est vue comme un produit, qu'elle est marketée et que ça ne correspond plus à la réelle identité de l'artiste. C'est vrai que ça peut arriver. Ça, t'as raison, il faut le dire.
Après, c'est vrai que j'ai pas d'exemple. Peut-être qu'effectivement, ça n'existe pas en fait.
Ça a existé, c'est certes. Bah, l'exemple typique, c'était les boys bands à une époque, tu vois.
Oui, non, mais
où
ça non, mais
on les fabriquait de toutes pièces.
Oui, mais personne te faisait croire que Philippe des To Be Free s'est enregistré dans son garage, tu vois.
Non, non, effectivement.
Les mecs, ils étaient...
Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tout cas, c'est moins visible. Je pense qu'il y a des espèces de rebranding, mais je pense qu'ils ne sont pas uniquement commerciaux. Par exemple, ce qu'on peut dire effectivement sur Mickey, il y a une réalité, c'est qu'elle a eu une carrière avant.
Je ne savais pas.
Elle avait sorti des trucs, etc. Et je crois qu'il y a eu un peu une autre vision artistique, mais qui participe certainement.
Ah, donc elle
aussi.
Était déjà.
Ouais, je crois qu'il y avait déjà eu des propositions musicales auparavant, okay, mais je pense que ça vient aussi d'elle. C'est pas juste que tu vois, ça n'est pas seulement le produit du commerce, c'est qu'aussi elle s'est dit, bah, j'ai envie de faire une autre musique, peut-être. Tu vois,
peut-être elle les a retirées des plateformes.
Ça, je sais pas, bah, comme Anaïs, par exemple.
Par exemple.
Qui n'assume plus l'industrie plante. Okay. Oscar, qu'est-ce que tu penses de ces histoires de la complexité parfois de... En fait, ça révèle un truc dont on parle souvent dans cette émission. On avait même parlé avec une philosophe dans l'émission sur l'idée que bah, art et commerce, en théorie, c'est pas tout à fait la même chose. L'art, c'est pas une marchandise, en théorie.
Ouais.
Et donc, il y a une tension permanente dans tout ça et qui aussi amène à ces discussions. Parfois, on est trop dur, c'est vrai, mais parfois aussi parce que bah, est-ce qu'on devrait considérer que la musique est un commerce comme un autre, tu vois?
Grande question.
Une, ouais, industrie, comme
ça. Non, mais sans, ouais, rentrer dans le grand truc, tu vois, hyper théorique, ou, mais juste globalement, de ouais, comment en tant qu'artiste, tu vois, on arrive un peu à se frayer un chemin dans tout ça, de être un peu vrai, mais ouais, c'est aussi un métier, ouais, c'est aussi un commerce, tu vois. Enfin, est-ce que, ouais, que c'est des questions que tu te poses, toi, ou...
En tout cas, je me sens pas limité dans ma démarche artistique, genre de devoir faire un truc pour que ce soit commercialement viable. Parce que en vrai aussi bah j'ai jamais été dans une galère financière et tout, donc en vrai je peux, voilà,
tu peux te permettre de prendre ton, ouais, temps de,
oui,
pas...
c'est ça,
mais il y a des genre des collabs que tu t'interdirais par exemple, ou tu vois, genre avec des artistes tu dirais,
ah,
tu sais, ça peut fonctionner commercialement, mais,
oui,
c'est tellement pas toi et tout, tu te dis, ouais, je, ouais, préfère rester moi, quitte à moins buzzer tout de suite que...
D'accord, ouais. Oui, en vrai, moi, je suis assez curieux, de, genre, tu vois, de tester avec des artistes où, genre, on s'y attendrait pas. Mmh. Mais parce que après, je sais aussi que parfois, juste tester, ça engage en rien, tu vois. Après, moi, j'ai aussi cette casquette, celle-ci, mais aussi de producteur. Et qui fait que genre je peux aussi bosser avec des artistes de manière un peu plus discrète.
Ouais, c'est...
Et donc ça peut me permettre aussi de, voilà, okay, quoi, de tester d'autres trucs, etc. Bon, après là, en vrai, j'ai quand même plus envie de faire mes sons et donc du coup de me concentrer sur ça. Et mais en fait, moi, j'ai ce truc de toute façon avec les collaborations où c'est toujours très compliqué de trouver les bonnes personnes avec qui ça fonctionne parce que bah vu que je fais vraiment mes sons, genre enfin comme j'ai des prods et tout. Genre j'ai l'impression que ça marche que avec moi un peu et donc
ouais, t'arrives avec un produit déjà
ouais par exemple j'ai enfin posé sur la prod de quelqu'un d'autre c'est très compliqué pour moi écrire sur une prod faite par quelqu'un d'autre voilà j'ai plus de mal à m'inclure dans un truc par exemple voilà de faire un feat genre un cypher avec plusieurs artistes etc j'aimerais trop mais j'ai beaucoup de mal à faire ça Donc voilà, je suis plus comme ça.
Ça peut nous amener vers la dernière partie de cette émission, Daz, autour un peu justement de l'entourage, de l'émergence, la filière, etc. Mais peut-être, si on a écouté un extrait d'un featuring d'Anaïs avec Wizkid, on n'a pas écouté Oscar lorsqu'il collabore avec quelqu'un d'autre. Alors j'en ai mis plusieurs de côté. T'avais cité cinéma, par exemple, avec Enchanté Julia et Luigi.
Mmh. Voilà, pour le coup, je suis pas en feed sur celle-là.
Sur cinéma, on t'entend pas du tout.
Non, je fais la pardon. Je dois faire des chœurs peut-être, mais voilà.
Ah oui, non, je confonds. C'est un morceau aussi sur le dernier album de Luigi où on t'entend sur les chœurs à la fin.
Cabine.
Ah oui, c'est Cabine, c'est ça.
Effectivement, ouais, c'est une reprise de Michel Fugain qui lui-même a repris une chanson brésilienne. Là, j'ai plus le titre.
Allez. Bah alors oui, il faudrait qu'on trouve à ce moment-là pour qu'on t'entende toi aussi, ce sera sur ton EP en fait,
coup de fil avec Luigi.
Ouais. On peut s'écouter. Ah, parce qu'après j'ai mis de côté plein de trucs sur lesquels t'as bossé mais on t'entend pas. Typiquement, ouais. faudrait qu'on s'écoute un extrait de Prêche de Thury parce qu'il est il est incroyable ce morceau.
Ouais.
Incroyable. Oui, t'as bossé sur Téléfoot de Luigi aussi. Ouais. Vénus, Enchanté Julia, enfin pas de bêtises, ouais.
Oui, Enchanté Julia, je crois qu'on est à 9 ou 10 morceaux ensemble. Donc ouais. Il y a pas mal.
Ça fait
j'ai un feat avec Enchanté Julia qui s'appelle Down aussi.
Voilà. Qu'est-ce que t'as envie d'écouter, toi? Un feat où on t'entend et puis avec un autre artiste que t'aimes bien. Puis...
Ouais, bah Down en vrai avec Enchanté Julia, c'est cool.
Et bah écoute.
Dis-moi comment faire. Moi je fais n'importe quoi et mon cœur de pierre n'en finit plus d'être froid. L'absence du père, c'est vrai que ça pèse parfois. Jamais tant de vide n'avait pris autant de place.
Hey. Tout est feu, tout est flamme, tout est bleu, tout est drame. Dans les larmes, tous mes voeux sans les armes. Éclaire-moi, je ne vois rien dans ce noir. Je ressens ta présence sans te voir. Allumons une bougie pour la nuit, qu'elle dure jusqu'à midi.
Quand je suis down, que j'entends sa voix dans les flammes. Ses mots sont aiguisés comme une lame. Tout devient plus simple quand on parle, on se comprend. Quand je suis down, que je passe toute la journée dans le sofa. J'ai déjà vu ce film 23 fois. J'ai pas besoin de dire quand je meurs, tu comprends.
Depuis le début de cette émission, on n'entend que des morceaux, mais c'est luxueux. Quoi. Ça donne envie de manger des ailes de poulet dans de la belle vaisselle. Tu vois. Franchement, c'est vraiment soyeux.
Un petit cigare après. Pour
ah putain, un cigare cognac, on est bien.
Autre chose, c'est pas.
Ah ouais.
Oui, il faut qu'on parle aussi de cette idée de l'émergence, parce que bon alors. Toi, Oscar, mine de rien, en fait, t'as un peu plus de bouteilles parce que t'as déjà deux EP derrière toi, un album complet, t'as réalisé plein de trucs avec d'autres gens. Toi, Anaïs, ta carrière un peu plus récente.
T'as 23 millions d'écoutes avec un morceau.
Oui, ce que n'a pas Oscar, c'est vrai, il faut le rappeler régulièrement.
Là, ça fait mal.
Non, mais ça compense.
Ouais, mine de rien, quand même, tous les deux, vous êtes encore au début de la construction d'une carrière, quand même. Et. Nous, nous, c'est un truc aussi qu'on observe dans cette émission. On a dédié d'ailleurs des épisodes à un peu les dispositifs d'accompagnement, par exemple, quand on lance une carrière d'artiste, ce genre de choses. Est-ce que, première question, vous avez été accompagné par des structures ou par des gens pour un peu vous professionnaliser d'une certaine manière?
Si vous parliez de FGO tout à l'heure, par exemple, donc ça en fait partie. Hein.
Absolument. Et deuxième question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de circuit, d'étape à franchir dans l'émergence? Vous le voyez autour de vous, bah ok, un artiste qui veut percer, on sait qu'il faut passer par telle étape, aller à tel endroit, peut-être faire tel concert, telle salle, j'en sais rien. Mmh. Mais on peut déjà commencer, est-ce que vous avez été accompagné par des gens?
Non.
Okay. Non, j'ai juste été avec... j'ai commencé seule, ouais. Après je suis tombée sur mon manager. Okay. Et après j'ai juste continué comme ça. Après quand je suis arrivée en France, on a essayé de me pluguer au MAMA.
Ouais.
Ça n'a pas du tout marché.
T'as pas fait un concert au MAMA?
Non, j'en ai pas fait.
Mais la question s'était posée effectivement de faire, parce que moi je me rappelle être au MAMA et me dire ah il doit y avoir un
oui,
escargot.
De base je devais faire le MAMA et puis j'ai annulé la veille parce que la personne qui m'avait booké m'avait menti, enfin pas menti, je sais pas si c'est mentir, moi je pense ça comme un mensonge, mais avait dit que c'était accessible et c'était pas accessible. Et aussi je voyais pas ça comme un truc essentiel à mon projet, en fait ça m'intéressait pas du tout. Surtout c'est pour chanter au sous-sol du Moulin Rouge, pas du tout. Donc non, j'ai pas fait le MAMA.
Ça devait être à la machine, c'est ça.
Voilà. Ouais.
Et on peut juste expliquer pourquoi tu parles d'accessibilité, ça.
Parce qu'en fait, du coup, bah, j'ai un handicap. J'ai un truc qui s'appelle arthro-ripose et du coup, bah, j'ai un peu de galère avec tout ce qui est escalier, longue distance. Et en fait, la personne qui était en charge de me mettre au MAMA m'a dit que c'était accessible, mais au final, mon ami me dit que c'est pas accessible, il y a des escaliers. Et en fait, quand je dis à la personne bah, « c'est pas accessible », elle me dit « bah écoute, t'inquiète, on te met sur une chaise avec des roues et on te tire sur les escaliers ». Et j'étais genre « ok, j'ai pas le temps pour ça ». Et du coup, je me suis retirée la veille. Okay. Mais au final, je l'aurais fait, je l'aurais pas fait, ça aurait rien changé à ma vie. Je pense que c'est pas ça qui m'a ouvert certaines portes. Donc non, j'ai juste, ça a toujours été mon manager et moi.
Et y compris, alors c'est encore une autre étape, parce que là c'est vrai que j'avais en tête beaucoup tout ce qui est SMAC, ou je pense aussi au FER qui est vraiment une étape encore après les SMAC, etc. Mais tout simplement label par exemple, ce genre de choses.
J'ai commencé sur DistroKid, okay. Et après
pour distribuer ta musique.
Voilà, pour distribuer ma musique. Après j'ai eu mon distributeur pendant longtemps qui est Platoon, donc c'est le label de Apple Music. Okay. Et récemment, j'ai juste signé avec eux parce que ça s'est toujours très bien passé. Donc, mais ça fait pas longtemps. Alors ça
ouais, donc t'es quand même assez éloigné de ce côté, ce qu'on appelle parfois la filière, industrie musicale, des acteurs, etc.
Personne, tu vas me dire, tu fais un feat avec Wizkid et il n'y a pas un seul label là, qui a envoyé un email.
Bah
genre...
si, mais moi je me sentais super bien avec Platoon. Okay. Après, il y a plein de labels en France aussi, ouais, qui ont essayé de me faire rentrer dans des boucles. Mais ça ne m'a pas forcément intéressé parce que c'est toujours « faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je parle français, faut que je fasse ci ».
Ah, ils viennent avec des...
Je viens de trop d'endroits, j'ai été dans trop d'endroits pour me limiter à un truc. Et du coup, non, j'ai pas... Okay. J'ai préféré continuer avec Platoon qui est en Angleterre, du coup.
Ouais, parce que du coup, oui, sinon ça aurait été te faire attraper un petit peu par le système français et te limiter.
Exactement.
Ouais, on est terribles, les Français.
Ah bah oui, ouais, terrible dans le sens premier du terme en plus. Enfin,
et toi, Oscar, est-ce que t'as un parcours un peu qui a des gens, des structures qui accompagnaient ta professionnalisation,
ouais,
et toi?
Ouais, ouais, moi j'ai fait le chantier des Franco, okay, en 2021. J'ai joué au MAMA justement là dans le
sous-sol
en 2022 mais je pense que c'était au même endroit
à la machine
ça, mais pas la grande scène du truc, ouais, à la chaufferie je crois,
ouais, exact.
Voilà, effectivement il y a un grand escalier et ouais, en gros moi j'ai eu plus ce truc, enfin genre j'ai postulé justement pour un peu tout en vrai, genre le faire accompagnement du FGO, etc. Okay. Parce que justement, enfin moi je suis accompagné aussi de mon manager et du coup il y a un moment donné on était en mode bon viens, il y a des sous à faire, il y a, enfin voilà, qu'on essaye en fait par tous les moyens possibles de faire ce truc là mais à la fois je sais aussi que parfois chez enfin chez moi-même ou chez les artistes que je côtoie, parfois il y a un peu un truc aussi de faire attention à pas être catégorisé comme le gars qui a fait les Inouïs ou machin truc parce que effectivement bon j'en sais rien, comme certaines personnes peuvent trouver que genre je sais pas avoir fait un télécrochet ou un truc comme ça, ça peut être trop une étiquette trop lourde à porter.
Il y a ça pour l'émergence.
Non mais bah, en gros enfin dans le sens où tu vois genre si t'es connu parce que t'as fait tel truc d'accompagnement par exemple, tu vois. Après moi j'ai pas l'impression que dans la carrière des artistes qui sont passés par là et pour qui ça a marché.
Ça les a engagés à...
Non, en vrai, non. Donc en fait, moi, c'est aussi pour ça que j'ai grave dédramatisé ce truc-là et je me dis... Et en vrai, effectivement, souvent, ça change pas non plus forcément la carrière pour tout le monde. Mais c'est une option, quoi. Voilà. C'est un champ des possibles.
En fait, nous, on n'a pas fait d'accompagnement avec Daz, mais par contre, on a reçu des gens qui en proposent. On a reçu les gens du Fer, on a reçu les gens de FGO, etc., pour discuter justement de ce qu'ils proposent comme dispositif. Et des autres, en fait, d'ailleurs aussi. On a parlé des SMAC aussi, etc. Et ce qui ressort, en fait, c'est... Alors, ça peut être un peu un accélérateur de carrière, dans certains cas, c'est vrai. Mais en fait, ça, c'est pas du tout la majorité. C'est surtout, en fait, ça permet de rencontrer quelques professionnels, quelques gens, et d'apprendre quelques trucs sur son métier.
Ouais.
Surtout ça, en fait, de se dire, OK, l'écosystème que je maîtrisais pas du tout, ah bon, il faut éventuellement avoir un avocat sous la main. C'est ce genre de trucs qui peuvent avoir une utilité, quoi.
Non, c'est vrai que généralement, chaque accompagnement, en tout cas, auquel moi j'ai pu avoir droit, il y avait souvent une journée où t'allais rencontrer une personne qui bosse justement en édition, une personne qui bosse en distribution, etc. En gros, te donner une idée un peu des métiers, des différentes manières d'être accompagné justement. Est-ce que tu vas avoir un contrat de distrib, de licence, d'artiste, comment tu peux articuler tout ça? Il y avait une dimension pédagogique en gros. Voilà.
Toi, c'est un truc qui pourrait te plaire, toi, à l'inverse, tu vois, pour essayer de comprendre, parce que c'est un business compliqué parfois, la musique.
Bah en soi, je pense que dans tout cas, c'est hyper important ce genre de plateforme parce que c'est des ressources et c'est bien quand on sait directement où les trouver. Donc si j'avais juste accès à ces ressources-là, franchement, je suis de nature hyper curieuse. Mais sinon, après, bon, je pose plein de questions et qui veut m'écouter va m'écouter. Mais je pense que c'est hyper utile. Genre, c'est des... Jusqu'à présent, par exemple, jusqu'à la semaine dernière, je ne pouvais pas expliquer c'était quoi un publisher. Je pose les mêmes questions, on me répond la même chose, mais je ne comprends jamais. Donc je pense que c'est super utile. Genre, il y a plein de trucs dont on ne se rend pas compte. Et même dans. J'ai des amis qui sont allés au Mama, ils ont appris comment. Enfin, qu'il y a plein de trucs, genre dans les. Même dans le business, dans l'argent, comment on l'utilise dans tout ça. Il y a trop de trucs qu'on ne sait pas.
Les subventions, la spécialité de la France.
Crédit d'impôt.
Eh oui.
Non, mais on en parlait dans le dernier épisode. Enfin, c'est pas le dernier qui est sorti, mais l'épisode avec Bonnie Banane et Joseph Schiano-Guilombo, où Bonnie nous disait clairement moi, mes albums, j'ai pu les faire parce que j'avais des subventions. Sinon, j'aurais pas pu faire ces albums. Et en fait, il y a beaucoup de
dossiers à monter
ou ne serait-ce que le principe de l'intermittence en France, qui est quand même aussi avec de l'argent public, tu vois. Enfin, c'est une énorme chance qu'on a en France et qui est parfois valorisée par les artistes parce qu'effectivement, qu'elle folie.
Moi, je valorise dès que je peux parce que effectivement, c'est trop important. C'est trop important de pouvoir faire son métier sereinement et c'est trop important de rappeler que c'est une exception en vrai et que la plupart des artistes dans les autres pays galèrent de fou. Et que voilà, c'est en gros...
C'est un truc que tu vois, toi, Anaïs, comme tu es entre plusieurs pays, cette question de l'intermittence, tu la connais un peu et tu vois un peu comment ça n'existe pas dans certains pays.
Je l'ai découverte quand j'ai emménagé ici et en fait, c'était trop drôle parce que moi, mon manager, il est pas européen du tout, il est américain. Et du coup, pendant des mois, on était genre, mais c'est trop bien le truc d'intermittence. Et en fait, après, il y a pas longtemps, j'ai appris qu'avant, il y avait beaucoup d'artistes américains qui venaient ici pour justement cette intermittence-là. Et je trouve que c'est trop bien parce qu'en fait, ça permet de valoriser son travail, en fait, de se dire, ce qu'on fait, c'est aussi un métier et c'est pas juste un truc à l'arrache où on doit galérer, en fait. Donc moi, je pense que c'est trop cool. C'est super cool. Ouais.
Encore une exception française.
Tu vois, on est terrible, mais on fait des trucs bien.
Bah ouais.
C'est la beauté
de notre culture.
Il y a, t'as évoqué alors les Inouïs, donc c'est le printemps de Bourges. T'as évoqué aussi les Franco. On pourrait parler aussi des transmusicales qui sont aussi souvent précurseurs, enfin qui mettent sur scène en gros des artistes qu'on voit pas souvent, ouais. Qu'on n'a pas encore vu en France régulièrement d'ailleurs. Est-ce que la scène, ça a du sens encore pour vous? Parce que on observe quand même qu'il y a de plus en plus d'artistes qui émergent grâce au studio. Qui en fait, ils construisent une carrière en étant avant tout des artistes de studio. Et c'est souvent après avoir connu le succès, enfin dans certains cas en tout cas, c'est après avoir connu le succès qu'ils se disent « Ah tiens, je vais vivre l'expérience aussi du live, etc. » Dans le rap, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont percé en stream et en travaillant en studio avant d'aller faire... Et c'est une fois qu'ils étaient connus qu'ils se sont dit « Bon, je veux faire des festivals, il faut que j'assure un peu de concerts, etc. »
Un passage obligé, par contre. Enfin...
Et bah, tout le monde ne le fait pas. En tout cas, tout le monde ne s'investit pas de la même manière dans cet aspect-là.
Parce que moi, j'avais compris que, justement, l'âge d'or de t'es signé en maison de disques et tu peux te permettre de faire un album tous les 5 ans, full studio, et de temps en temps, tu fais un truc et tout. Bah, justement, c'était passé et qu'aujourd'hui, les artistes étaient obligés de défendre leur musique sur scène.
T'as raison, l'argent. Par exemple, typiquement, on sait que les festivals... C'est un truc qui est plutôt intéressant économiquement pour les artistes. Parce que t'as pas à produire le show toi-même, à trouver l'argent, etc. pour financer ton concert. C'est on t'accueille, t'as un cachet, etc. C'est
en fait, je crois pas qu'il soit possible de construire une carrière sans jamais rencontrer ton public. Enfin,
je pense qu'il y en a quelques-uns. Je pense pas que ce soit la majorité, je pense qu'il y en a quelques-uns.
Parce que je me dis, franchement, j'ai pas de... Genre... tu vois, un genre de Francis Cabrel du 21e siècle. Bon, il est pas mort, Francis, bisous, mais tu vois, Cabrel, le mec, il fait un album tous les 12 ans et le reste du temps, il est chez lui et il s'en tape, tu vois, il chante pas, il fait rien, enfin, il chante pas en tout cas en public et tout. Je crois que c'est impossible.
C'est-à-dire ne pas sortir des morceaux, c'est pas possible.
Non, ne pas sortir des morceaux, sortir de chez toi, en vrai. Tu vois, parce que alors, je sais qu'on a.
J'ai vu Francis Cabrel au Francofolie il y a 2 ans.
Ah putain, il sort.
Il
alors.
Joue quand même.
Il sort. Ok, voilà. Il sort.
C'est vachement bien d'ailleurs.
Il sort.
Ouais. Parce que là on a donné un peu nos regards avec Daz. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous observez autour de vous? Est-ce qu'effectivement il y a quand même une distinction avec des artistes clairement orientés studio, d'autres gens qui c'est la scène qui leur permet de se faire un nom? Est-ce qu'il y a quand même un peu deux cultures différentes? Moi, c'est ce dont j'ai l'impression. Et vous, dans quelle culture vous inscrivez d'une certaine manière? Quel est votre rapport au live?
Moi perso, là où j'en suis, j'ai envie justement de pouvoir défendre ma musique en live, et justement l'enjeu c'est plus de convaincre les programmateurs, programmatrices, etc., qui ont du coup de moins en moins de sous, notamment avec les dernières coupes budgétaires, et donc du coup en fait c'est plus un but finalement, parce que justement c'est difficile de se faire de pouvoir jouer en festival, de pouvoir se faire programmer sur des programmations de salles, etc. Donc en gros, et aussi parce qu'en vrai, quand on a des musiciens sur scène et une équipe, ça coûte assez rapidement cher. Donc soit il faut être accompagné de tourneurs qui sont capables d'avancer, d'être à perte pendant 1 an, 2 ans, etc. Soit il faut déjà être connu avant de commencer à tourner. Donc en fait, ce qui se passe aussi parfois pour certains artistes. Donc en vrai, moi par contre, j'ai encore envie de croire à ce truc de genre je vais construire une carrière avec le live, genre en faisant des concerts des fois devant des gens qui me connaissent pas forcément et que je vais convaincre, tu vois, même si j'ai grave l'impression que c'est un peu une chimère, mais je trouve que c'est beau comme idéal, tu vois, donc je vais continuer.
Ouais, les festivals pour ça c'est cool. Plus que faire des premières parties pour d'autres où là effectivement les gens viennent pas du tout pour toi, mais en festoche tu peux peut trouver un public.
Je pense en vrai ça dépend du festival. Moi en tout cas les festivals que j'ai fait jusqu'ici souvent, je voyais qu'il y avait des gens qui connaissaient quelques paroles et tout, mais genre souvent c'est des gens qui te découvrent et tout. Puis t'es à des heures aussi assez tôt, tu vois, où genre t'as pas encore tous les gens qui sont arrivés, etc.
T'as la tête d'affiche, donc on te met pas forcément.
Ouais, c'est ça. Donc en vrai, moi j'ai l'impression que le live, c'est, enfin, moi j'ai aussi ce truc où genre d'avoir des musiciens sur scène, d'être en mode guitare voix et tout, un peu à l'ancienne, mais donc je sais pas, j'ai ce rapport un peu à l'ancienne moi.
Et t'es d'accord avec ce constat, enfin avec cette idée que c'est pas dans la culture forcément de tous les artistes aujourd'hui, cette idée de le live doit être prédominant dans ma carrière?
Ouais, je pense qu'il prend surtout plein de formes différentes quoi, et que je pense qu'il y a Il y a le format un peu plus showcase aussi, tu vois, genre où t'es, où tu vas juste avoir tes sons qui passent derrière et tu vas venir chanter par-dessus des bandes et tout, qui est aussi en vrai.
Même en festival presque,
ce format. Ouais. Bah aussi qui coûte moins cher, qui est plus facile à mettre en place et tout. Donc en vrai, je pense qu'il y a, il y a aussi, je pense, des réalités aussi parfois de, bah, de mise en place de spectacles et tout, peut-être avec des artistes justement qui n'ont pas forcément une longue carrière et qui ont un succès genre d'un coup et qui se retrouvent sur des grosses scènes et genre du coup j'imagine qu'ils n'ont pas forcément eu aussi le, bah, le temps de construire un show, ouais, un show avec des musiciens, etc. Parce qu'en vrai c'est du taf aussi. Puis si tu sais pas faire, ça veut dire faut que tu puisses payer quelqu'un qui le fasse, qui soit enfin directeur musical, etc. C'est un taf à part entière. Hein. Bien sûr. Donc voilà.
Toi, Anaïs, ton...
La même chose.
Toi, c'est... Et genre, c'est un objectif pour toi, par exemple, le live dans ta carrière.
Moi, c'est mon truc préféré.
Ah ouais.
J'ai commencé par ça et après les studios. Le studio, pour moi, c'est hyper récent. Moi, c'est déjà ce que je veux faire et c'est ce que je veux. Oui, je veux bâtir ma carrière, mais je pense que j'ai cœur à investir dans le live. Pareil, en fait.
Tous les deux, par exemple, une vie, alors sur quelques années, est-ce que c'est toute sa vie, je sais pas, mais une vie sur la route. Parce que c'est aussi ça, parfois, le quotidien des musiciens qui vivent surtout du live.
Le tourbus.
C'est un truc qui pourrait, qui peut vous intéresser, au contraire, qui vous fait un peu peur. Ça peut être rude aussi, parfois, ça.
Je sais pas. J'aime trop chez moi. Et puis, moi, je suis. Donc, en fait, je suis timide. Et du coup, si je suis pas dans mon espace, je vais jamais recharger correctement. Après, je vais me sentir dépassée partout. Mais je pense que c'est là où l'entourage, c'est bien. C'est bien de voyager avec des gens qui nous comprennent et qu'on comprend. Mais du coup, ça fait que la route, elle est moins lourde.
Ouais. C'est pas un frein, même, ta timidité, peut-être, pour...
Sur scène, j'ai une autre personnalité.
C'est vrai?
Ok. Je se révèle.
J'ai une autre personnalité. Non, c'est pas du tout un frein. Ouais. Avant, ça l'était, quand j'étais petite. Et puis, je trouve que sur les 4 dernières années, ça va. Ça s'est super estompé. Non, ça va. Je suis pas si timide sur scène, non.
Est-ce que oui, toi, sur le côté un peu la vie en tournée, quoi.
Moi, j'ai jamais vécu ce truc-là, genre vraiment de faire une grosse tournée, justement en tourbus, etc., sur une longue période de temps. Donc honnêtement, je sais pas. Enfin, je pense que c'est pas un truc qui est forcément super agréable en termes de qualité de vie. Et puis aussi, j'ai aussi des interrogations sur. Sur le bien fondé en termes d'écologie, de, tu vois, de faire des tournées comme ça où tu passes 4 heures à l'endroit où tu vas, puis en fait tu pars super loin et tout. Genre là, il y a un groupe qui s'appelle Terre Noire.
On a parlé de ça.
Voilà, donc
tu peux quand même, on invite les gens à regarder l'épisode de DLT avec Terre Noire, mais tu peux nous dire quand même rapidement
Parce que Théo et Raph sont de très grands militants. Et donc du coup sur leur tournée, enfin de ce que j'ai compris, du coup ils ont à cœur de rester plus longtemps sur
la région.
Ouais, c'est ça, dans les lieux où ils viennent jouer, pour justement créer d'autres choses aussi, d'autres événements que le concert, aller rencontrer, je sais pas, des gens dans les écoles, enfin voilà. En tout cas, ralentir un peu. Et penser le temps un petit peu plus long pour éviter justement que ce soit juste des transferts et plein de... et aussi penser de sorte à ce qu'en termes de transport ça pollue le moins possible, etc. Donc bref, voilà, il y a tout ça à réfléchir aussi en amont. Et donc effectivement, moi l'idée du tourbus et tout, je suis pas en mode ah trop stylé, quoi. Enfin, je me dis en vrai cool, si, enfin c'est, ça serait quand même un plus. En vrai, ça voudrait dire que j'aurais une tournée déjà. mais en soi, je pense que ça peut être cool justement de penser différentes manières de le faire. Voilà.
Après, le défi, c'est toujours le même. C'est, on avait parlé avec Terre Noire, c'est le défi économique, quoi. C'est comment justement on arrive à avoir des partenaires qui nous font confiance pour tourner d'une autre manière, etc. Ouais. Eux, ils avaient trouvé le bon tourneur pour ça, parce qu'ils avaient déjà une relation depuis longtemps avec eux.
Ouais.
Et ils étaient partants, mais c'est pas tout le monde qui dirait « Ok, écoute, plutôt que de faire un jour un concert, le lendemain t'es ailleurs, tu restes 4 jours au même endroit et tu vas rencontrer dans des maisons de retraite ou dans des écoles. »
Il faut aussi savoir le tanker, ce truc-là, parce que te dire...
Après le concert, demain on est à l'école élémentaire de machin et tout. Ouais. Il faut.
Bah,
il a envie de parler aux gosses aussi. Tu vois,
ils avaient dit qu'en plus émotionnellement c'était hyper prenant. Bah, ouais. Ça demande un investissement personnel. C'est une vraie rencontre avec les gens, quoi. Donc.
Ouais. Mais oui. De vous.
On s'écoute. Je sais pas, pour terminer, moi j'aime peut-être des extraits. Je parlais de Prêche de Thierry. T'as beaucoup bossé sur ce morceau. T'as fait quoi exactement sur Prêche?
Bah, en fait, alors c'est la première fois que j'avais bossé comme ça justement, parce que donc Thierry il bosse pas mal avec un pote à lui qui s'appelle Franck, et donc j'étais avec Franck et Thierry. Et en gros, ils avaient une idée à la base, je crois, il y avait vraiment la batterie et peut-être, je sais pas, une basse. Enfin bref, il y avait une idée globalement de qui voulait rapper comme ça. Ils voulaient une intro un peu en mode, on sait pas trop où est le temps et tout. Et donc moi, je suis arrivé, j'ai un peu posé un peu tous les instruments qu'il y avait. Genre, il y avait un piano, il y avait un clavier MIDI où j'ai pris un son d'orgue, j'ai enregistré des guitares, des basses et tout. Je leur ai enregistré plein de trucs un peu, et ensuite Franck a fait vraiment l'arrangement et tout, et moi j'ai entendu le produit fini en mode ah ouais, trop chaud.
C'est trop bien.
Donc en gros j'ai bien aimé justement cette manière de faire, parce que moi ça m'a enlevé toute la charge mentale de devoir faire des choix artistiques. Et en gros je suis juste arrivé en mode genre j'ai joué presque tous les instruments sur le son, quoi.
Ben on pourrait s'écouter ça, et pour toi Anaïs, si ça te va, on pourrait, parce que c'est un des trucs les plus récents, le featuring avec Vicky R. Miles, ça pourrait t'aller d'écouter ça ou... Magnifique.
Allez.
Bon, on commence avec Prêche, Thierry, sur lequel a bossé Oscar, et après le morceau sur lequel a bossé Anaïs. Et je vais avancer dans le morceau au moment, parce qu'il est hyper intéressant dans son développement, ce morceau.
J'ai giflé un pote blanc qui m'a dit, on dit quoi mon négro, wesh. Quand je regarde dans le rétro, y avait de l'amour dans mon geste. L'impact était tellement fort que la douleur a dû toucher un de ses ancêtres d'origine éthiopienne. Les lines pleuvent comme pluie diluvienne. Mes ex partent et reviennent comme les contours de Tory Lanez. J'aurais utilisé mon white privilege si j'étais white. J'aurais pas demandé tuerie en fit si j'étais what. Et j'ai conscience que c'est toujours la banquise dans mes veines. I had a dream, un frigidaire avec moins de réverb. Donc, fuck faire les baïonnettes, les politiques nous baïonner. Je me dis, y'a pas plus honnête qu'une balle. C'est de l'autre source, c'est pas un fou. Hacu, ressource. Je rappe quand mes plays s'ouvrent. J'ai attendu les beaux jours et l'amour qu'ils insufflent. Je me suis donné l'amour tout seul, le genre de truc qui rend sourd. Les miens souffrent, y'a que l'argent qui nous rassure. Là d'où je viens, on meurt avec des rêves. Là d'où je viens, on meurt avec des rêves. Là d'où je viens, on meurt avec des rêves. Parce qu'il y a des fleurs dans mes clips. Mais c'est pour rendre hommage à ceux qui attendaient que la voix s'éclipse. Habillé en blanc devant l'hôtel, je vais épouser le bif. Je réalise l'impossible aussi. Mon projet, ma progif. Je sais que tes genoux sont usés comme ceux d'une pauvre petite prostituée. Ta force, tu sais, c'est la mauvaise musique. Je suis comme la caméra black et magique. L'obsertie de diable sans sanglante et du pénis l'Afrique. La violence dans un champ de lys.
Et en plus, tu te réfères à Black Magic. Donc, il y a quelqu'un qui bosse pour Black Magic dans ce bureau.
Ok.
Le représentant en France.
Ah, c'est super cool ça,
c'est
aussi.
C'est trop bien ce morceau, il est incroyable. Ouais. Bon, j'ai laissé un peu longtemps, mais parce que t'as vu, l'évolution est vraiment intéressante.
Mais donc, c'est marrant parce que, ouais, toi, t'as juste joué des trucs dans ton coin, en fait. Parce qu'à un moment donné, vraiment, le clavier rentre quand il balance la phase et tout.
Ouais, en fait, moi, ce qui m'a tué, c'est parce que je me souviens plus exactement comment on avait fait. Je me rappelle qu'il enregistrait déjà ses voix quand j'étais là. Mais je crois qu'il y a aucun moment où on a vraiment fait genre
un truc ensemble.
Ça. Enfin, en vrai, franchement, ça fait un moment déjà. C'était en 2020, je crois. Mais si, en vrai, il y a peut-être un moment où lui il posait, moi j'accompagnais au piano. Mais je crois que après ils ont dû
reprendre
juste session, faire en sorte que ça marche, quoi. Et en fait, j'aime bien parce que quand t'écoutes l'intro, tu sens que c'est mouvant, quoi. Que c'est pas clair, genre il y a un tempo et tout. Mais je trouve que trouve que c'est ça qui est fort.
En fait, on a l'impression du coup que vous l'avez vraiment fait.
Ouais.
Tu vois.
C'est ça.
On a vraiment l'impression qu'il pose sur la musique, c'était construit ensemble et tout.
Mais ouais, en vrai, je mets un disclaimer parce que je me rappelle plus exactement comment on a fait. Mais voilà.
Bon, toi, Anaïs, par contre, avec Vicky R, tu dois t'en rappeler parce que en tout cas, c'est sorti très récemment. Mmh. Comment ça s'est fait cette collab, donc qui est rappeuse, Vicky R?
Bah, Vicky, pour moi, c'est un peu une de mes grandes amies ici parce qu'elle vient du Gabon aussi. Et du coup, on a. Bah, elle est bien plus grande que moi. Mais elle a les mêmes amis que moi, on va dire. Mais moi, c'était plus en étant la petite du lycée et tout. Et du coup, on est rentrés en contact. Elle était super cool. C'était une de mes les premières amies ici à Paris. Et du coup.
Elle faisait déjà de la musique.
Et après. Elle m'a dit, écoute, je vais écrire une chanson sur le fait d'être loin de ses proches. Et du coup, on a écrit ça. Voilà.
Bon, on s'écoute ça. Miles, Vicky R, Anaïs Cardo.
Le lien demeure fort sans qu'on y pense. Dans mon cœur ton souvenir résonne. Ma dernière carte ton amour m'étonne. Une promesse en battement qui sonne.
Ce que ça donne.
Trop chaud.
C'est propre. C'est très propre.
Quand tu montes un peu, ça me fait faire. Hop. genre, tu sais, ma tête part carrément avec la note.
C'est quoi les objectifs pour chacun maintenant, un peu dans les prochains mois? Toi, Anaïs, il y a un album qui doit être en préparation, c'est obligé.
Oui.
Tu peux pas en dire beaucoup plus pour le moment.
En ce moment, donc je sais pas quand ça sort, mais du coup, en ce moment. Enfin, je sais pas quand cet épisode sort.
Oui, ça sera fin du mois de juillet. Okay.
Bah, du coup, ce sera pas toujours sorti. Okay. Mais en ce moment, je bosse sur mon deuxième EP. Okay. Et voilà, j'ai trop hâte. J'en parlais tout à l'heure avec Oscar, c'est un peu le truc de s'assumer un peu plus, de se retrouver un peu plus là-dedans. Et je suis trop contente. Et puis voilà, je pense que c'est un peu. J'approfondis un peu ce que j'avais déjà touché, je pense. Mais ouais.
Il y aura des collaborations dessus
Juste une. Juste une. Parce que je pense aussi. J'ai mis beaucoup d'énergie dans le projet des autres. Et j'ai envie d'apprendre à être seule. Donc il n'y en a qu'une, mais c'est la famille. Donc.
On peut dire le nom ou c'est encore confidentiel?
Je sais pas.
Non, t'es pas obligé.
J'ai paniqué.
Le leak. Mal avec ton manager.
J'ai grave paniqué.
Après, ils vont me dire non, retirez l'épisode.
Ok, on dit rien.
Jay-Z.
Okay. Jay-Z. Voilà. Et l'idée sera d'aller défendre un peu cette EP après en live et tout?
Ouais, du coup, j'ai. Normalement, plein de lives qui viennent. Okay. J'ai trop hâte parce que ça fait longtemps que je ne suis pas remontée sur scène.
En France aussi?
Ah oui. Donc normalement, peut-être en octobre, il y aura un truc. Je ne sais pas. J'attends. Je panique là.
Je ne sais pas ce que je peux dire.
Je suis triste.
Mais marche sur des braises.
Mais oui, il y aurait plus de live et j'ai super hâte. Super hâte. Oui.
Et toi, Oscar, c'est bon, l'album est récent encore. L'idée, c'est de le défendre le plus possible, justement, sur scène et tout.
Ça va clipper ou pas?
Ça va clipper. La majorité des clips, ils sont sortis plutôt en amont de l'album, justement, pour défendre les singles, parce qu'on a fait beaucoup de singles et tout. Mais en gros, là, oui, effectivement, j'ai plus envie de défendre cet album, justement, en live. Mais aussi, en vrai, je réfléchis à d'autres manières de faire vivre cet album. J'aimerais bien faire justement plutôt des vidéos live, etc. Parce que j'ai l'impression que j'ai envie de remettre justement la guitare, l'instrument et tout au centre, même dans la création de mes morceaux. Et j'ai l'impression que je pourrais plus accentuer ce truc-là. En fait, donner à voir un peu plus dans mes visuels justement ce qui se passe aussi sur scène, etc.
Ce que tu avais fait en plus je suis tombé sur des vidéos YouTube de toi il y a quelques années où tu étais en groupe et où vraiment on voyait le côté instrumentiste live vachement mis en avant.
Oui, en fait, c'est que je crois que je l'ai un peu perdu justement dans ma période prod, quoi. Parce que justement, je voulais aussi un peu apprendre à utiliser l'ordi, aborder les choses d'une autre manière et tout. Et en fait, d'une certaine manière, je pense que quand j'ai commencé à faire de la musique sur ordinateur, pour moi, je crois qu'il y avait une scission entre ça et le fait de jouer d'un vrai instrument. Ce qui est absurde, hein, mais j'ai mis longtemps avant de réintégrer justement la guitare, le piano, la basse, etc. dans mes compositions. Et là, maintenant, j'y arrive. Donc, du coup, j'ai envie maintenant de mettre plus l'accent sur ça dans mes visuels et tout. Mais ouais, en vrai, là, je suis content parce que justement, à cette fin d'année, je vais avoir quand même des concerts pour faire vivre cet album-là. On a fait une maroquinerie aussi, sold out, là, en avril et tout. Donc, ça faisait trop plaisir. C'était un peu en mode de ouais. Les gens, ils connaissent mes sons. Ils ont appris les paroles et tout. C'était trop beau, quoi. Donc, voilà, moi j'ai envie de continuer sur cette lancée. Je refais un peu de musique aussi, mais je pense que là c'est trop tôt pour me remettre sur mon deuxième album, parce que en vrai je me suis mis une pression aussi, maintenant j'ai envie de faire mieux. Donc, voilà, j'ai pas envie de presser le truc.
Et des collaborations avec d'autres gens, être à la prod, c'est des trucs que tu vas faire dans les prochaines semaines, prochains mois?
En vrai, je continue. Mais en vrai, cette année, j'ai produit un morceau pour le dernier projet de Opinard. Justement, le morceau s'appelle Un jour ou l'autre. Et en vrai, avec Opi, on continue de faire un peu de musique ensemble et tout. Donc, voilà, en vrai, j'avais proposé aussi de faire un petit peu de musique avec Anaïs. Donc en vrai, je suis toujours dans ce truc. En fait, j'ai envie de m'ouvrir. Donc, j'ai envie de faire de la musique avec des gens, de voir comment les gens font, de m'inspirer, avant de revenir dans ma chambre tout seul à faire mes trucs, quoi.
Et avec Luigi, ça pourrait, ou alors il te donne plus l'heure maintenant que c'est une superstar en France.
Il est plus difficile d'accès maintenant, effectivement. Mais
j'ai été impressionné. Ouais. Moi, j'avais découvert avec Tristesse Business, volume 1, enfin le premier, tu vois.
Ouais.
Et en fait, je l'ai vu il y a 2 ans ou 3 ans à la fête de la musique à l'Olympia. Radio France organise chaque année un truc, bref.
Oui.
Et donc il y avait Luigi et j'ai halluciné, son public c'était des adolescents.
Oui, c'est vrai
qu'ils connaissaient les paroles de ouf. En fait, c'était une pop star.
Ouais, de fou.
Alors que pour moi, c'était encore un mec un peu, tu vois, un peu spé, qui proposait un truc un peu spé, machin. Ouais. Et en fait, c'est une pop star aujourd'hui. J'ai trouvé ça hallucinant.
Ouais, de fou. Oui, c'est vrai que les concerts, souvent, genre, tu l'entends même pas, quoi. C'est genre, ça chante tellement fort dans le public, tous ces textes de la première seconde à la dernière seconde, que c'est hyper impressionnant.
Complètement fou.
Daz. Big up Luigi, hein.
Oui, c'est bon. Si tu veux venir nous voir, c'est la fin de cette émission.
Eh oui.
On a une tradition, Daz.
Bah bien sûr, les recos. Chaque fin d'émission, en fait, on propose aux invités et puis à nous aussi de faire écouter un son de vous ou pas, un truc avec lequel vous butez, actuel ou pas. Ça n'a pas besoin d'être un truc du moment, ça peut être justement
truc que vous
les trucs de la Motown de 1871.
Ouais.
Moi, vous avez des idées, vous voulez un peu de temps?
Moi, c'est bon, j'en ai une.
Moi aussi.
Ah, ah, c'est fort.
Incroyable.
Alors,
eh ben, allez-y.
D'ailleurs, big up à mon pote Lies Cassie qui m'a fait découvrir ces morceaux. Mais...
Ah, et avec qui t'as bossé beaucoup sur ton album?
Avec qui j'ai bossé. Ouais, il a participé notamment le morceau Ma Voix, on l'a fait ensemble avec mon pote Kate et Lies Cassie. Donc, c'était un morceau de Naomi Scott avec Johnny Yukon qui s'appelle Rhythm. Trop bien.
Eh bien, je l'ai trouvé. Je ne connais pas du tout. Ça va être une surprise, une découverte. C'est parti.
Ouais.
Intéressant comment sur les couplets au niveau harmonique c'est hyper répétitif, légèrement déstabilisant et tout, et comment ça sourd, c'est hyper mélodique sur le refrain, ouais. Tu vois.
Mais à part, alors de ce que j'ai capté, cette artiste elle a fait grave des musiques, enfin je crois pour des films ou genre des Disney ou des trucs comme ça, enfin un truc qui est très loin de ça et tout, mais mais là j'aimais trop parce que pour moi tu sais il y a la petite vibe un peu groove ternaire en mode the way you make me feel,
ouais, genre, ouais,
mais
grave.
En plus doux.
Non mais voilà. De fou, je suis d'accord.
Voilà.
Moi, c'est une chanson que j'entends partout.
Ah ouais? Mais c'est pas grave, vas-y,
mais
si
genre,
tu la kiffes.
Partout, ouais. Alors que c'est une vieille chanson.
Ok.
Et en fait, je suis un peu dans cette phase disco en ce moment.
Ah ouais?
Du coup, c'est Young Hearts Run Free de Candy Staten.
Eh ben,
on dit rien.
Je connais pas du tout.
Moi non
tu connais,
plus.
Toi,
non.
Peut-être on va faire.
Ah, non, peut-être vous avez pas entendu. C'est moi.
C'est quoi? C'est à Londres ou au Canada qu'on entend ça? C'est ça?
À Ottawa?
Ouais. Bon, on l'écoute.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts run free.
Alors ça va être la nouvelle Anaïs Cardo, le prochain EP c'est disco, c'est comme ça, non.
J'ai jamais entendu ce
morceau.
J'avais envie de dire Young Men avant que le truc...
Ah ouais.
Young Men, tu vois, ça partait comme vidéo.
C'était quoi,
l'entends
partout.
Ah c'est fou, ouais.
Ah ouais.
Ah ouais.
Ok, bon.
Non.
Poursuit.
Bah oui, ça me suit. Ça me suit.
Moi, j'y vois un signe.
Young Hearts Run Free.
Daz, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux écouter?
Ouais, j'ai plein de trucs. J'hésite entre ma période brésilienne et ma période de Houston. C'est un peu un grand écart. Mm. Ouais, on va partir à Houston. Un morceau qui s'appelle Come Dine de Slim Thug. Slim Thug qui était un représentant de Houston il y a quelques années et qui est maintenant un peu l'oncle du coin, quoi. Okay. Et il a fait un album avec un mec qui s'appelle Propane. Et c'est tellement la vibe Houston que c'est trop bien, en fait.
Et c'est comme dine, ça veut dire en plus bien manger, non?
Ouais, bien grave, mais je pense qu'il y a un double sens.
C'est pour ça qu'il est tonton maintenant. Ah, non, ouais, ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, en fait c'est...
Voilà, pas forcément des volontés criminelles, mais peut-être un petit peu...
Anaïs, elle connaît bien l'anglais, elle va nous dire.
Ouais.
Ouais, ouais,
c'est du texan, hein, donc...
Analyse bien les paroles, Anaïs.
Summertime in Houston on a Sunday. Yeah. Okay, I come down like Geronimo. These little hottie diamonds glow. Waist come from the doctor, but that ain't come from her mama though. When it feel like I got cleats on, man, I'm trying to make these commas grow. If a nigga ever think about Reese's 40, singing like the Commodores, I pop in and pick up the shell case. This out the mud and I'm self-made. Off of rhyming these words, I could have been slanging some shit. This is why this a deal face. But instead, I leave records to dope. And I swear that the trap really roll like for real skates. And I'm chasing the apple and Zell pays. And I never get tired like Kel Case. I just stack it and run up the scope. She know I'm one of a kind. The quarter put diamonds in mine. Shit, I got a glow. Say I'm the one in my time. The rockets go in overtime. And I'm on the flow. The way that I'm killing the crime, they gave me no trouble to shine. I started, I broke. Well, I be bouncing and hogging this shit. I could have been signed a VH. Turkey, still see the shit on my shirt. Swear we ain't missing no work. She walking out fixing a skirt. Legend put this on the turf. I started out late, but these niggas gon' mention me first. Frank said it's joint is pain, so he ain't no stopping. I'm here tryna win till it hurt.
We them boys on them things coming down. We like pop drum, that's right, and bang, and that's how we do it. We babe. Make noise.
Alors Anaïs, activité criminelle ou pas?
Pas du tout.
Juste une phrase que j'ai retenue, c'est « She's walking out fixing her skirt ».
Ouais, c'est ça.
Peut-être.
Ça, c'est des invitations à, voilà, à venir dîner avec les boys on them things. Voilà, et c'est Houston, donc c'est vraiment les Cadillacs avec les jantes là, qui peuvent couper les pieds des gens là, okay. Parce qu'elles dépassent de 3 mètres de chaque côté
ça
de la voiture.
Un peu,
ouais, les lowriders et tout, c'est l'ambiance festive texane.
Écoute, de bien belles choses.
T'as quoi toi, Salman?
Bah, j'hésite entre. J'ai découvert deux albums géniaux récemment. Et il y en a un, on va pas écouter un extrait parce que j'espère bien avoir dans cette émission la personne derrière. En tout cas, je lui ai lancé l'invitation, j'ai pas de réponse pour le moment. Et c'est l'album de Drift. Drift qui est en fait l'alias de Renaud Létang. Renaud Létang qui est un réalisateur hyper réputé qui a fait plein de trucs. Allez voir sur Wikipédia, son CV est complètement hallucinant. Mmh. Et il vient de sortir un album absolument génial. Okay. Avec plein de featuring dessus. Tous les gens qu'il a croisés dans sa carrière, des Philippe Catherine, des Feist, plein de gens. Et l'album est vraiment trop trop bien. Mais on va pas écouter ça. On
l'écoutera
quand il viendra nous voir.
Non reco.
Exactement.
Ah, okay. N'écoutez pas cet album.
N'écoutez surtout pas. Attendez l'émission. On découvre. Non, on va écouter un artiste que j'ai déjà reco pour son morceau Bikini avec Erika de Casier. Et c'est Nick Leon, que j'adore, okay. Qui est un producteur de musique électronique américain. Je crois qu'il est de Miami ou un truc comme ça. Et il vient de sortir un album que je trouve trop trop bien, qui est à mi-chemin entre, je sais pas, il y a des trucs un peu électroniques qui pourraient être un poil IDM UK, et en même temps c'est hyper pop, hyper mélodique, c'est à la fois club et à la fois parfois un peu ambiante et tout, hyper mélangé. Il y a même des rythmiques un peu reggaeton, je sais plus de quelle origine il est, mais il a des origines latino, donc tu sens qu'il y a eu un mélange de fou dans tout okay. ça.
C'est floridien quoi.
Ouais. Oui, la Floride, effectivement. Voilà. Je pense qu'il est du coin.
Au carrefour, au carrefour des peuples.
Et c'est un super mélange aussi entre musique un peu électronique, un peu mainstream et un peu underground, tu vois, faire référence à plein de trucs, bref.
D'accord.
Vachement bien, et je sais même pas quoi choisir parce que l'album est vraiment, dans sa globalité, intéressant. Allez, on va mettre Product of Attraction, qui est avec un artiste que je connais pas du tout, qui s'appelle Laverne. je sais pas comment faut prononcer.
Laverne.
et on va s'écouter ça. Et je vais le mettre, parce qu'il met un peu de temps à démarrer, je vais le mettre à genre hop, à peu près 30 secondes. C'est parti ?
Allez.
Let's go.
J'avoue, je vois plus le côté Manchester que Miami là, mais ok.
Oui, ouais. Mais c'est plein de mélanges. Tu vois, il y a des.
Ça m'a un peu rappelé Jimmy Stack, moi.
Je connais pas Jimmy Stack.
C'est un producteur qui a fait des sons avec. Enfin, moi, je l'ai connu avec des sons avec Bon Iver, Dijon et Casey Hill.
Ok.
Et je sais pas, enfin, je trouve qu'il y a un peu ce genre de couleur. Bah, c'est pas exactement ça, bien sûr, mais bref.
Ouais. Mais c'est hyper varié, vraiment, l'album. Et surtout, dessus, ça se termine avec le tube Bikini, là, avec Erika de Casier. Je sais pas si vous voyez Erika de Casier.
Non.
Oh, c'est une meuf qui fait du R&B, justement, et qui est incroyable.
Trop ok. Forte.
Et là, il y a sa voix, et avec un morceau un peu club mélancolique, Bikini est trop fort. Bref. On va pas écouter non plus tout l'album. On va se dire au revoir.
Oui.
Merci beaucoup encore Oscar M, Chanel Cardo d'avoir participé.
Super. Le meilleur pour vos carrières respectives.
Ouais, de ouf.
Continuez à faire des sons soyeux comme ça là, qui donnent envie vraiment de.
Non, bien sûr.
Kiffer la vie. Hein.
Franchement, moi, j'ai pas trop peur pour eux.
Ouais, je suis pas inquiet.
Anaïs, elle a une voix de malade.
Est-ce qu'ils se rappelleront qu'ils sont venus dans le tempo plus tard?
Non, ils nous oublient.
Dans leur tourbus.
Comme Luigi.
Dans leur tourbus électrique.
Oscar. Oscar nous oubliera. Aussi,
t'inquiète, tonton Salman, t'oublieras jamais.
Non, et en plus, il y a un truc, on n'a pas insisté là-dessus, mais sur l'album d'Oscar, qui est hyper bien aussi, les paroles sont particulièrement touchantes, il y a vraiment un truc de se révéler, de parler de soi, mais de manière, tu vois, fine, intelligente, avec aussi une forme de pudeur, et en même temps, on sent aussi le besoin de parler. Enfin, t'as trouvé un bon équilibre dans tout ça, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc voilà.
Lyriciste.
Oui,
je prends le compliment. Merci.
Ouais, je suis sûr que c'était une de tes envies, à la fois de pouvoir te révéler sans trop non plus être, tu vois.
Ouais, oui. Bah, en tout cas, je voulais que ce soit incarné. Je voulais parler vraiment de ma vie, quoi. Donc, ouais, j'ai passé du temps sur ça et à me concentrer vraiment sur mon écriture avant de me remettre sur la musique, quoi.
Bon, on vous invite à aller écouter ça, à écouter Alex aussi. Et puis, Badaz, c'est
les vacances.
Pause. C'est les vacances, petite pause estivale.
Ouais.
On est fin juillet. En août, il n'y aura pas d'épisode. On se retrouvera très vite en septembre, pardon.
Alors techniquement, moi là, si on est fin juillet, en fait, je suis rentré de vacances et c'est nickel. Paris au mois d'août. Let's go.
Ouais. En tout cas, les gens vont pouvoir faire une pause sans DLD. Ça leur fera du bien. Comme ça, ils seront heureux de nous retrouver.
Tu sais que j'ai entendu des gens qui ont mis genre un an pour écouter une émission en entière.
Mais ça m'étonne pas, c'est beaucoup trop long la preuve. Cette conclusion.
On prononcera pas de nom, mais il est autour de cette table et c'est ni Salman ni moi. Voilà.
Tu parles d'Oscar ? Camille, c'est vrai, un an à regarder l'épisode avec Flavien Berger.
Exactement. Ouais. Voilà.
pour en profiter au maximum.
Exactement. Voilà. Donc bienvenue en 2032 pour les gens qui nous écoutent.
Bon, on se retrouve pas dans 15 jours, on se retrouve à la rentrée. Nouvel invité, nouveau sujet, ça sera une nouvelle saison, on va essayer de faire encore mieux avec des invités encore plus prestigieux, encore plus intéressants, encore plus, je sais pas quoi, encore plus beaux, des invités encore plus beaux. Je sais pas, ils seront plus en tout cas. Bonnes vacances.
Ciao. C'est même pas garanti.
C'est n'importe quoi.
Ciao.